En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute.
Merci. Merci beaucoup tout le monde. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. Cette semaine, on est là en ce moment pour on est pendant le festival Juste pour rire, pas pour les gens qui écoutent sur YouTube ou sur leur téléphone ou je sais pas sur quoi t'écoutes ça, mais c'est le festival. Puis hier, j'ai moi cette année, c'est la première année depuis longtemps que je fais pas partie du festival. Puis hier, c'était weird. Je me suis rappelé à quel point les amuseurs publics me tapent ses nerfs. Si j'étais, il y avait un gars qui m'a reconnu. C'est un gars, lui, il marche dans la rue avec comme des caisses de bière, puis il fait comme s'il va les échapper. Puis là, il m'a vu, il m'a reconnu, puis il a commencé à me suivre. Il était comme, « Ah, tu fais attention, hein? » Puis là, j'étais comme, « Qu'est-ce que tu fais, là? Tu penses-tu, c'est-tu de même que tu penses que je vais te remarquer, puis je vais faire, « Chris, je vais appeler Gilbert pour qu'il t'engage, c'est-tu? » Je vais appeler Gilbert pour qu'il te donne un gala. Parlant de Gilbert, j'ai rendu Gilbert Roson triste. Gilbert, j'ai remarqué, moi j'aime ça, mes amis, souvent si font quelque chose de weird, je vais leur faire des gags. Ou souvent je fais des gags sur le foulard à Yann, c'est-tu qui a de l'air de Hulk Hogan ou d'un pirate. J'aime ça, écœurer le monde. Puis là, Gilbert est arrivé, puis il y avait comme des lunettes croches que le tabarnak. Puis là, j'ai juste fait, qu'est-ce que tu portes, Gilbert? Tabarnak, c'est quoi ces lunettes-là? Puis là, il m'a montré qu'il était belle. J'ai fait, c'est une cochonnerie que t'as acheté au Dragon, ça? Puis moi, je pensais qu'il allait rire, mais il a plié ses lunettes, il les a mis dans sa poche, puis il est parti, puis j'étais comme, oh, je viens de blesser un millionnaire. Je me sentais mal. C'est là que tu vois que Gilbert, tous ses amis, c'est ses employés. Fait que lui, il peut arriver à ça avec ses lunettes croches, puis le monde font comme, son nice, tes lunettes. Ça look en tabarnak ton habit saumon avec le foulard. Bravo, Westy. Fait que c'est ça. Cette semaine, j'avais annoncé que Ken Cogendi allait être ici. Y en a-tu qui sont venus pour Ken? OK. Mauvaise nouvelle. Ken, c'est que sa grand-mère est mourante. Puis hier, il a cancellé, il est retourné en France pour être avec sa grand-mère mourante, qui est comprenable. Là, Chris, tu sais, je connais pas sa grand-mère, puis même moi, j'ai plus le goût d'être avec elle que vous autres. Fait que, tu sais, non, mais tu sais, fait que Kian ne peut pas être là, mais il va revenir un moment donné au camp, si jamais je fais un podcast de la France. Puis je voulais juste, c'était weird, tu sais, quand il m'a écrit ça, moi, je comprenais, puis j'étais comme, mais je savais pas quoi répondre, tu sais, j'étais comme, j'ai juste répondu, bonne chance avec ta grand-mère. Mais c'est weird, tu sais, quand quelqu'un fait, ma grand-mère est en train de mourir, pis je fais, bonne chance! J'espère que ça va être une mort rapide! Tu sais, je savais pas, tu sais, non, mais c'est vrai, tu peux pas dire, j'espère que ça va être une mort rapide, ou tu peux pas faire, j'espère que c'est long pis qu'elle souffre. J'espère! Mais c'est ça. Fait que je suis bonne chance. Je savais pas quoi répondre. Mais on a pareil, j'ai décidé de garder l'idée de faire un show international. Au lieu de Kian, j'ai invité un gars qui est établi à New York depuis 7 ans. Un gars qui vient de faire un c'est son deuxième gala Juste pour rire. Il y a c'est un humoriste anglophone qui parfois fait des shows en français, qui est excellent. Et on a un autre gars que j'ai découvert, ça sonne comme si c'est moi qui a starté sa carrière, là, mais un gars que, ça fait une couple d'années que je connais, qui est très drôle, un Suisse, un Canadien, Québécois, Américain, il chante comme Elvis Graton, mais j'aimerais ça qu'on leur donne une bonne main d'applaudissement, mesdames et messieurs, voici Daniel Tirado et Thomas Wiesel. Thomas, merci. Merci d'être là.
Allô?
Salut, merci. Là, c'est ça qui est cool. Les deux, vous êtes des habitués du bordel quand vous êtes à Montréal.
Oui, c'est tellement bien cet endroit et on est très triste de pas en avoir des comme ça en Europe, en tout cas.
Ouais, t'es venu. J'aime ça que le public, la réaction touchée de oh.
C'est pas à vous, c'est à lui déjà cet endroit. Je fais un compliment à Mike.
Puis toi, en plus, je pense que t'es l'humoriste le plus dark en ce moment. Ton humour, moi, il me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup rire.
Ah, merci.
Parce que t'as, tu sais, en plus, pour nous, les Québécois, on entend l'accent suisse. Tu sonnes comme distingué. Et là, c'est que des jokes de viol. C'est rafraîchissant.
Tu diffuses pas en Suisse, ce truc.
Non, mais ça, comme j'ai fait ton gala à Montreux. Mm-hmm. Tes trucs, quand tu fais de la télé, il y a rien de qu'est-ce que tu fais ici qui est diffusable à télé ou est-ce que ça passe?
Non, ça pourrait passer. Okay. Ça pourrait passer, je pense. Non, j'ai déjà fait des trucs assez dark à la télé. Peut-être qu'après, ils coupent sans me dire. Je sais, quand j'ai fait Comédia il y a un mois, ils m'ont dit qu'ils avaient coupé certains des trucs les plus hard que j'ai fait.
Qu'est-ce qu'ils ont coupé?
Je sais pas encore. Mais je fais un peu des gags sur Céline et René, des trucs sur Joël Legendre, comme ça. Peut-être que c'est ça qu'ils ont coupé.
OK. J'aime ça en plus que t'as plus de références québécoises dans tes gags que les Québécois. T'sais, t'as fait une joke sur Joël Legendre, t'avais une joke sur moi. C'est quand même.
T'as vu la joke sur toi, les gens, ils savaient que t'étais un peu là au coin, puis ils étaient gênés.
C'était mal.
Ils savaient pas si tu serais fâché, s'ils riaient ou pas, donc ils osaient pas. D'habitude, elle marche bien, mais là, comme t'étais là, elle a pas marché.
Ouais, c'est ça. Moi, je pensais, le pire, j'avais déjà entendu cette gag-là, puis je pensais que ça allait doubler vu que j'étais là. Je me disais, ça va être comme un roast. Mais c'est vrai que ça a fait comme le monde.
Ils ont peur
comme,
de toi. Ils ont peur de toi, les gens.
Ah, ils font, si on rit, peut-être il va nous faire mal avec ses jokes. Et toi, Daniel, c'était hier ou avant-hier ton gala,
c'était
juste pour rien?
Avant-hier.
OK.
Ouais.
Ton deuxième gala?
Ouais, j'avais fait mon premier gala en 2010, puis c'était une très mauvaise expérience.
Est-ce que tu vivais à New York encore ou c'est juste
non,
avant de partir?
C'est juste avant de partir. Puis c'était avec Louis Morissette puis Jean-François Mercier. Puis c'était super cool, mais sauf qu'avant le spectacle, il y avait une intro, puis. C'était genre, c'est pour, il y avait un thème, bye bye, je sais pas ce qui s'est passé exactement, il y avait.
C'était l'année après le bye bye qu'il y avait eu comme un scandale un peu raciste, puis là, il revenait là-dessus.
Fait qu'il voulait faire ça super encore, genre, hopper la note.
Ils t'ont-tu demandé de le faire en blackface?
Non, ça aurait été nice. Mais ce qui était fou, c'est qu'il y avait trois danseuses qui sont montées sur scène. Fait qu'il y avait six totems. Puis après ça, il y avait un gars qui montait sur la scène, puis il a flashé sa queue pendant une minute.
OK. Ah ouais. Ça, ben, c'est le numéro
d'ouverture.
Vraiment,
une minute. Ouais. Puis c'était spectaculaire. Genre, tout le monde capotait. Puis après...
Et après, mes jokes passent pas à la TV. Puis ça, oui.
Puis après, c'est genre, et le prochain invité, c'est Daniel
Tirado.
C'est Tirado.
Toi qui rouvrais après
ouais.
ça.
Tu peux pas suivre une queue, puis trop... Genre, c'est c'était infaisable. Puis je pouvais même pas faire référence à ça parce que c'est pour la télé. Fait que je devais faire semblant que comme si rien s'était passé.
Fait que là, c'est juste arrivé de...
Je parle de mon père.
Hey, as-tu déjà remarqué?
Ouais, exactement, c'est weird. Fait que mes 3-4 premières minutes, c'était terrible.
Et puis t'as fait 6 minutes.
Puis j'ai fait 7 minutes. Non. À la fin, ça marchait bien, okay. Mais c'était pas le fun.
Puis t'avais eu, juste pour rire, qu'il t'avait fait une offre... c'était-tu en gérance ou en production ou en booking?
Pas, ils m'ont envoyé un email en me disant que si je voulais faire carrière ici, il y a de la place pour moi. C'était vraiment touchant, mais j'allais partir le mois d'octobre. Puis m'installer à New York. Fait que, je devais quitter. Je voulais vraiment approfondir mon matériel. Okay. Puis, c'est cool Montréal, mais comme n'importe quelle ville, c'est une bulle. Puis même New York, c'est une bulle, tu sais, à un moment donné.
Puis là, ça fait que t'es parti octobre 2010.
J'habitais là de 2000 à 2003, j'étudiais le théâtre.
OK.
Puis après, je suis revenu ici, puis j'ai fait du stand-up en...
T'as commencé au Comedy Works ou Comedy Nest?
J'ai commencé à New York. J'ai fait genre 3 shows à New York. Okay. Puis après, je suis revenu ici, puis j'ai développé un personnage, genre Tony Mambotana. C'est genre un Cubain qui enseigne la salsa. Like, yeah, how you doing, everybody? c'était genre Tony Montana, mais Mambotana. Puis c'était weird, mais c'était nice. Faut pas me juger, puis
c'est impossible de pas te juger quand tu dis quelque chose de même. Ça serait hot que dans ces années-là, tu disais-tu, quand tu passes aux douanes, tu sais, what do you do for a living? I'm Tony Mambotana.
Come right in! Ouais. Mais c'était nice parce que j'avais juste fait ce personnage pendant genre 4-5 mois, puis le festival a dit genre, let's do it.
Oh shit!
Ouais, et puis j'avais fait ça en 2005. Puis après, j'ai vraiment commencé à faire genre du stand-up. Puis,
c'est quel show que tu avais fait, Just for Laughs?
Le premier?
Loin?
The Montreal Experience.
OK. Mm-hmm. OK. Puis ça, c'est dans les années en plus. C'est ça que souvent, là, de Saint-Cy, les humoristes anglo-montréalais disent que Just for Laughs a pas. Ils mettent pas en valeur les humoristes montréalais, mais à cette époque-là, le Montreal Experience, c'était un gros show. C'était
cool, ça donne la chance aux Montréalais de se faire voir un peu.
Ouais.
Mais l'industrie va toujours voir les Américains.
Oui, oui. Non, c'est normal. Ouais. Ben, c'est normal, ça ne l'est pas, mais ça l'est. T'sais.
Ça serait cool si ça poussait un peu plus les Montréalais.
Mais ça, je pense...
Mais c'est quand même un show, un concept pour... Nous donner une chance.
Ouais. Mais tu sais, moi, j'ai fait, chaque fois que je fais des festivals, le gars local, souvent, il est mauvais. T'sais. Mettons, tu sais,
Par exemple, quand t'es venu à Montreux faire mon gala.
Non, c'était pas. Pas à Montreux,
ah,
mais
ben
genre,
voilà. Non, mais j'attendais que tu le dises.
Les petits festivals, tu sais, genre, tu sais, comme quand j'avais fait un festival à l'île du Prince-Édouard, puis il y avait un gars.
Il y avait des humoristes.
Il y avait un humoriste des îles du Prince-Édouard, puis j'étais comme. Tu réussis à faire des shows ici, puis il était comme, mais je fais 1 ou 2 shows par année depuis 17 ans, puis là, c'était un désastre. Puis moi, je me rappelle, les premières années, je faisais Just for Laughs. Chaque fois, le monde me demandait d'où tu viens, je disais Montréal. Je voyais dans leur face qu'ils pensaient que j'allais être le gars de l'île du Prince-Édouard, tu sais.
Ouais.
Je pense,
ouais,
on dirait, l'industrie a comme du mépris pour tout ce qui n'est pas New York ou LA. En anglais, je parle.
Ouais, mais tu sais, tout le monde se déplace finalement, genre, tu peux, de n'importe quelle ville, même de Londres, de Chicago, Boston, LA, tout le monde veut aller à New York. Genre, c'est genre la mecque du stand-up. Puis, ça approfondit énormément ton talent, man, parce que tu partages la scène avec les meilleurs stand-up au monde. Puis t'as pas le choix, man. Puis tu te fais détruire au début, puis ça tue ton esprit, man. c'est démoralisant.
Les premières années, ça devait être déprimant, tu sais, quand t'es arrivé.
C'était fou, man. C'était fou, parce que je montais sur scène, puis il y avait un show qui s'appelait The Late Show, puis c'était au Comic Strip, c'est un très bon comedy club. Puis t'arrives là, puis tu peux juste passer après un show de 3 heures, puis t'as 5 minutes, puis c'est un pass the mic.
OK.
Fait qu'il y a plus d'animateur, genre tu passes le micro, puis le monde après 3 heures, un lundi, mardi soir, sont fatigués, man. Ils s'en vont, man. Fait que tu montes sur scène, puis genre un groupe de 25 personnes qui se déplacent. Puis là, tu dois les parler, puis genre tu veux faire ton show, mais tu sais, ça leur prend genre 3 minutes à se déplacer, puis après un autre groupe qui se déplace, puis genre t'as genre 2 minutes dans le fond. Puis tu fais ça genre à 1h du matin, puis des fois il restait genre 3, 4, 5 personnes.
Est-ce que tu préfères ça ou quelqu'un qui monte sa graine avant ton passage?
C'est quoi?
Je pense que tu préfères jouer devant des personnes qui partent ou quelqu'un qui monte sa graine juste avant que tu montes sur scène?
Je sais pas.
Des gens qui montent. Des gens qui montent leur graine et qui partent, après.
C'est ce qui était fou.
C'est magique. Ouais. Qui sortent la graine en partant.
Il y avait un gars, mais une fois, il y avait un humoriste, puis il restait une personne. Dans la foule, une personne, puis tu sais, il devait faire ses jokes, puis il est allé aux toilettes, puis il a suivi aux toilettes
pour raconter ça, sa c'est joke. Drôle.
Ouais. Puis il dit, I'm gonna follow you to the bathroom. I have 5 minutes. Il est 1h du matin. Je suis venu pour travailler. Fait que je te suis.
Mais moi, il y avait quoi que j'avais vu à New York que je trouvais triste. J'avais fait au Creek in the Cave le show de Legion of Skanks, tu sais, qui font leur podcast.
Yeah.
Puis juste à côté d'où ils font leur podcast, il y avait une petite salle, c'est comme un open mic, mais il y avait 6 humoristes qui, à tour de rôle, faisaient leur joke. Non, en bas.
En bas, en bas, en bas, ouais,
mais
ouais.
Ils faisaient leur joke. C'est comme si, mettons, on est 3. Là, moi, je fais mes jokes, vous autres, vous écoutez. Puis après, toi, tu fais tes jokes, nous autres, on écoute. Puis j'étais comme... Tu t'améliores pas en jouant devant 2 personnes qui te jugent, tu sais.
Non.
Mais
si ils vont sourire, t'as de l'art. Tu vois ce que je veux dire? Ça prend juste ça. Mais si un comic, il dit « You got something », tu dis « Wow ». Parce qu'on rit à rien, man. On trouve rien drôle.
Ah, les humoristes, c'est les pires publics.
Ouais. Fait que, mais toi, c'est super cool quand t'étais à New York, t'es venu. Man, moi, ça m'a vraiment touché. Mike est venu à New York, puis il m'a dit, on était genre au downtown, sur tout proche du cellar, puis il y a plein de salles où on peut jouer, on peut faire du stand-up, genre des 5 minutes, des 10 minutes. Puis Mike, il a dit, OK, montre-moi, on va faire un petit tour. Puis je lui ai montré des petites salles, puis on est allé dans une salle qui s'appelle The Grizzly Pear.
Mm.
Puis il y avait genre, il y avait comme quoi, 5 personnes, man. Puis Mike, il a dit, je peux faire du stage time? T'es certain? Il y a genre 5 personnes, man. C'est Mike, tu sais. Puis il dit, ouais, je veux faire ça, mais je veux faire ça comme tout le monde. Puis je dis, alright. Fait que j'ai demandé s'ils pouvaient faire du stage time.
Puis on dit non.
Puis ils ont dit, Mike Ward, who? Puis Mike, il l'a fait comme tout le monde, man. Puis fuck, c'était vraiment cool de voir ça, man, parce que.
Moi, j'aime ça, ces shows-là.
Ouais.
Ben, je trouve, c'est qu'après, t'as un souvenir que les shows que tu te rappelles le plus, c'est ceux qui sont soit weird, vraiment le fun ou horrible. Puis horrible, c'est plate.
C'est pas horrible pour toi, mais
non.
T'avais bien fait.
Oui, ouais, mais tu sais, ces petits shows weird-là sont.
Tu peux pas les oublier, man.
Non, sont le fun.
Ouais, mais tu devais pas le faire. Puis tu l'as fait. C'est ce qui est cool, tu sais. Parce que tu demandes n'importe quel humoriste qui est genre méga star ici, mais ils vont fuck that.
Non, ouais.
Tu sais, ça prend beaucoup de caractère.
Mais tu sais, quand tu vas ailleurs, c'est ça que je trouve le fun, puis c'est cool de vous deux, tu sais, quand vous venez ici, parce que, tu sais, quand tu changes de place, tu repars tout le temps à zéro, puis ça, c'est pas tout le monde qui a l'ego assez in check pour accepter de... OK, c'est pas tout le monde qui me connaît puis qui m'adore, tu sais.
Oui, mais t'as rien à perdre quand t'es ailleurs non plus. Ouais, parce que si on fait un mauvais passage, les gens, ils vont pas se souvenir de nous. Parce qu'ils nous connaissaient pas 5 minutes avant.
Toi, la première fois que je t'avais vu, c'est ça, c'était à Québec.
À Québec, oui.
Au gala Comédia. Mm-hmm. Et t'avais vraiment tout arraché, là. Tu sais, c'était vraiment un méga, méga hit. C'est où t'avais joué au Québec avant ça?
J'avais fait Zoufest l'année d'avant.
OK.
Ici, j'ai fait le cabaret des maudits français.
OK.
Et je suis
weird,
suisse, mais...
Suisse, c'est-tu parce que les Québécois font suisse, français?
Ben, on n'est pas assez. Mais cette année-là, je me rappelle, c'était il y a 2 ans, on était 6 humoristes au cabaret des maudits français, on était 2 Suisses, 1 Belge et 3... et 3 Français. Et sur les 3 Français, c'était 2 Noirs. Et je sais plus qui était la dernière personne, mais je crois que c'est sponsorisé par l'Office franco-québécois, je sais pas quoi, donc ils touchent des subventions, donc ils doivent mettre français dans le titre, et puis on devait faire des vidéos promo, mais on devait pas dire qu'on n'était pas français.
Ok, ah ouais? Est-ce qu'il fallait faire un faux accent français?
Alors, ils nous forçaient pas à mettre le béret, et puis la baguette sous le bras, et puis à pousser jusque là, mais on devait pas trop, on devait faire une vidéo pour le 14 juillet.
Ok.
Et on essaie de leur expliquer que c'était pas notre fête nationale, que c'était pas notre pays, cela. Ouais, alors, allez derrière. Et du coup, on avait pas de réplique, puis on devait juste faire coucou.
Moi, je viens tout juste d'apprendre, c'est pas la fête nationale.
Non, c'est pas la fête nationale si t'es pas français.
Je sais.
Ah, ok, pardon.
Alors pour moi, t'es français.
Mais. Et pour moi, vous êtes tous américains. Mais. Non, mais vraiment, pour les gens, c'est trop petit, mais je peux pas leur en vouloir, c'est tellement petit, la Suisse.
Ouais,
enfin,
ouais.
T'es venu, t'as rencontré, je pense, tous les humoristes qu'il y a en Suisse, on est minuscule, donc on a l'habitude quand on est ailleurs de...
Le calibre suisse est vraiment bon. J'ai resté, tu sais, comme quand j'étais aux Émirats, j'étais là avec Noman, qui est vraiment excellent et qui boit autant que moi, je pense. Ça m'a impressionné, tu sais.
Mais il est pas suisse, Noman, mais...
Oh non! Mais il m'a dit
ça fait partie de son casting.
Ou que il m'a dit
il a vécu en Genève. Suisse. Il okay. a vécu en Suisse, je crois, 5 ou 6 ans. Ouais.
Ok, ah oh, moi de la façon.
Oui, mais il se parlait. Présente comme suisse. Il se okay. présente, mais si tu demandes à la douane, il n'est pas suisse.
Ok.
Non, mais ça fait partie des humoristes suisses, oui, mais c'est okay. pas.
Puis vous êtes combien? Vous êtes combien là?
Mais ça dépend parce que le stand-up, on est, je pense, professionnel de stand-up, on est 5, je pense, ou 6.
Wow. Shit.
Et après, t'as toute l'ancienne génération, les humoristes plus certains à texte, certains à sketch, certains à personnage. Je pense qu'on tout à vivre de l'humour en Suisse, on doit être 35.
Ok.
Un truc comme ça.
Puis la vieille génération, comment qu'ils voient la nouvelle génération? Puis comment vous voyez la vieille génération?
Bon, en fait, il y a un truc un peu bizarre en Suisse où il n'y avait pas d'humoristes. Il a manqué une génération, donc nos parents, ils avaient des humoristes qu'ils aimaient bien. Et nous, maintenant, entre 20 et 30 ans, on a une génération qui vient, mais entre deux, il n'y a personne. Donc quand on est arrivé, il y avait vraiment de la place. Okay. Parce que moi, mes potes, ils regardaient Jamel Debbouze, Gad Elmaleh, Florence Foresti, mais ils ne regardaient aucun humoriste suisse. Ils ne regardaient que la télé française et des trucs comme ça. Donc non, les vieux, bah, comme toute personne qui voit des nouvelles personnes débarquer, ils étaient un peu méfiants. Mais il y avait vraiment de la place et on marche pas sur les plates-bandes, on n'a pas le même public, donc ça va. Et en Suisse, il y a pas beaucoup de monde, on est 2 millions de francophones. Je crois que vous êtes 9 millions au Canada, donc c'est 4 fois moins.
Moins.
Non, combien?
Non, on est moins que ça. Francophones, c'est 7, ben 6 millions au Québec, puis 1 million à l'extérieur du Québec.
Ok, ouais, donc
quoi, 7.
3 à 4 fois moins en Suisse. Mm. Et du coup, il n'y a pas beaucoup de monde, mais il y a pas mal d'argent.
Ok, moins.
Donc, on crève pas la dalle. Tu vois, on arrive à gagner notre vie avec l'humour, mais c'est pas le strass et les paillettes. On fait pas des gros shows.
Puis, les prix des billets, mettons, pour toi, en show en Suisse, c'est combien?
Ah, c'est assez cher. C'est assez cher. Mon show à moi, il doit être entre 30 et 40 francs suisses. Donc, ça fait 40-45 ici, okay. Je pense, comme ça. Ouais.
Parce que c'est ça qui m'avait marqué.
Moi, la vie est chère, ouais.
Mais ouais, c'est très cher.
Et toi, ça t'a coûté cher de boire en Suisse, non?
Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Ouais.
Je me souviens que tu te plaignais de
ça. Mais ouais, non, c'est ça. Mais ça me coûte cher partout.
Oui. Mais ça, c'est une question de quantité, Mike. Ouais, mais oui, la vie est très chère et on gagne. Les salaires sont très, très élevés. Donc pour les étrangers qui viennent, c'est de la merde.
C'est quoi le salaire moyen en Suisse?
Alors, en moyen, on n'a pas le salaire médian, c'est 6 000 francs, donc genre 7 000 dollars par mois.
OK. OK.
Donc, c'est-à-dire que moitié de la Suisse gagne plus que ça et l'autre moitié gagne moins.
Fait que c'est, mettons, 100 000 Canadiens, ça, c'est la classe moyenne.
Ouais. Classe moyenne supérieure. Ouais.
Christy.
Mais c'est aussi artificiellement gonflé par tous les banquiers, tous les. Enfin, on a beaucoup de très riches.
Cacher des juifs. Juste. Tout.
Mais... Ben, non, mais derrière toute grosse fortune se cache un crime et la Suisse, ouais. Elle a vraiment bâti sa fortune sur le fait que déjà on n'a pas été attaqué pendant la Deuxième Guerre parce qu'on avait l'argent de tout le monde. Non, t'attaques pas ton porte-monnaie. Et oui, il y a eu pas mal de les fonds déshérence, comme ils appellent ça. Ils ont gardé ça et puis les banques se sont vraiment enrichies. Puis comme toute l'Europe est en train de se reconstruire et nous, on n'a pas été attaqué et on avait de l'argent, bah c'est à partir de là qu'on est riche. Ouais. Mais tu parles de ça en Suisse et les gens, ils sont mal à l'aise.
Ouais, non, je sais. Mais j'ai remarqué. Moi, j'ai remarqué.
Moi, je le fais, je me fais un peu insulter, mais...
J'avais, comme quand je suis allé en Allemagne, je parlais de Hitler à tout le monde. C'est vraiment ça fait un malaise. Mais tu peux faire...
Sérieusement, ça fait un malaise, je suis étonné.
Mais les Allemands sont super gentils maintenant.
Ouais, vraiment,
parce
vraiment.
Ils doivent vraiment compenser pour l'histoire. Ouais. Hein. Non, mais sérieusement, c'est les Européens les plus sympas que j'ai rencontrés, man.
Est-ce que tu as déjà fait des shows en Allemagne?
Non, jamais.
T'as-tu déjà joué en anglais?
Oui. On a fait un gala ensemble en anglais à Montreux.
Ah oui, c'est vrai. Excuse-moi.
Arrête de boire, man.
C'est pas grave.
C'est vrai. Ben oui, Chris, c'est vrai. C'est vrai.
L'alcool n'était pas si cher que ça, finalement.
Mais à l'extérieur, tu m'avais dit, t'as joué en Angleterre, je pense?
Ouais, je suis allé deux fois à Londres.
Okay.
À Paris, il y a pas mal de scènes anglophones pour les expats. Et en Suisse, j'ai joué pas mal en anglais au début pour les expats parce qu'il n'y avait pas de place en français au début. Donc, j'ai commencé ma carrière en anglais, en fait.
Puis, tu y penses-tu d'aller, mettons, à New York?
Pour l'instant, j'ai trop peur. Mais c'est marrant comme il raconte Daniel que New York, c'est la Mecque parce que pour les francophones d'Europe, c'est Montréal. À Paris, en ce moment, tous les Français veulent venir jouer à Montréal et c'est Montréal qui a cette réputation-là.
Ok.
Donc on est tous la mecque de quelqu'un, je pense. Mais non, moi c'est plus d'abord Montréal, peut-être un peu Paris, et puis New York dans 5 ou 6 ans, 10 ans, je sais pas, c'est plus loin pour moi.
Là, toi, t'es installé à Paris en ce moment?
Non, okay. Non, moi j'habite à Lausanne en Suisse.
Ok, est-ce que ça c'est ton prochain move d'aller t'établir en France ou...
J'aime pas beaucoup la vie à Paris, mais je fais des allers-retours beaucoup.
Est-ce que c'est possible de devenir connu à Paris sans
habiter à Paris ou... Bah, si t'as la télévision, la radio, ça peut être possible. Il y a pas mal d'humoristes français qui habitent parfois dans le sud de la France, puis qui vont à Paris faire des shows et qui reviennent. Anthony Cavana, il a habité longtemps à Paris, mais après il a déménagé en Suisse, mais il travaillait à Paris quand même. Mais la qualité de vie en Suisse est nettement meilleure.
André Sauvé vit en Suisse, hein, je pense.
Ah ouais?
Ouais, quelqu'un m'a dit ça l'autre fois.
Mais t'es sûr que t'as le droit de le dire publiquement?
Non, moi, mais...
ouais, est-ce que les impôts savent qu'André Sauvé vit en Suisse?
Je pense que quelqu'un m'a dit qu'il l'a vu dire ça à la télé.
OK.
Fait que c'est à lui de... S'il essaie de fourrer le gouvernement, il ne travaille pas super bien.
Écoute, vivre en Suisse, c'est très, très agréable. Et pour moi, qui ne suis pas parisien et qui ai peu d'amis à Paris, vivre à Paris, ça ne m'a jamais été très agréable. Je trouve ça assez oppressant comme ville. Bon, t'as joué un peu, toi.
Ouais, ouais.
Y a beaucoup de gens qui adorent habiter là-bas, mais moi, j'ai pas encore trouvé le truc. Donc, pour l'instant, je fais plus des allers-retours. J'ai fait un peu de télévision à Paris. Après, ils m'ont viré. Et là, je vais
Pourquoi?
Faire un peu. Je sais pas. Ils m'ont donné deux, trois. Ils m'ont pas dit, en fait. À la télé, je sais pas comment ça se passe à la télévision québécoise, mais la télévision française, ils arrêtent de t'appeler.
OK.
Et c'est comme ça que tu sais que t'es viré. C'est
okay.
que.
C'est comme les agents aux États-Unis.
Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Et même parfois, tu apprends que t'es viré quand tu essaies d'aller au travail puis que ton badge marche plus.
Ah.
Non, moi, ça m'est pas arrivé.
En
mais...
plus, tu partais de Lausanne.
Justement, j'ai su de pas y aller. Ça, c'est bon. Okay. Ils m'ont dit de pas venir. Mais je recommence à la radio en France, donc on verra. Mais c'est pas... Moi, la Suisse, ça me va très bien. Big fish in a small pond, ça me va bien.
OK. Mais puis aussi, tu voyages beaucoup, tu sais, fait que...
Ouais, dès que je peux, ouais.
Ouais, ouais, ouais.
Je suis allé à Dubaï l'année avant toi.
Ouais, ouais, ouais.
Moi, j'ai détesté ça.
Ben, moi aussi, j'ai... Mais, moi,
mais t'as dit un truc très drôle hier, qui m'a beaucoup fait rire quand tu dis « Dès que j'arrive dans un pays avec ma réputation, on me rappelle le règlement. »
Ouais, ouais. Mais toi aussi, ça devait être la même chose.
Oui, faire... moi, il m'avait bien expliqué ce que j'avais pas le droit de dire, mais... C'est particulier parce que ils te disent ça et tu n'y aurais pas forcément pensé, mais puisqu'on te l'interdit, t'as un peu envie quand même.
Ouais.
Parce qu'on m'a expliqué pendant 10 minutes, fallait pas faire de blagues sur le drapeau, puis t'as pas envie de faire de blagues sur le drapeau, mais si on te l'interdit, t'es là. C'est vrai qu'il est nul dans le drapeau. Quoi. Donc j'ai hésité, puis je me suis un peu pris pour Edward Snowden. À un moment donné, je vais dire, je vais faire de la prison, je vais montrer comment c'est, puis après j'ai eu peur.
Donc, c'est ça qui est cool. Il y a beaucoup plus d'opportunités, même quand t'es un small fish dans un big pond, tu sais. La big fish en small pond.
Ah oui, bah oui. Bah regarde, moi j'ai présenté un gala.
T'es à Dubaï, mais c'est malade.
Non, mais ça, vas-y pas.
Parce qu'à New York, on est en 3000 puis 5000 humoristes.
Ouais.
Mais je sais pas comment
on fait. T'as vraiment bien fait ça, tu sais, ton gala.
Il était cool, hein?
Il était vraiment cool. Vraiment cool.
Le gala?
Il animait un gala au Montreux Comedy Festival à Montreux. Puis, c'était vraiment...
Ce qui était cool, c'est qu'ils m'ont laissé carte blanche.
Ouais.
C'est-à-dire que comme il y avait que la télévision suisse qui était intéressée, et ils ont pas un pouvoir de négociation incroyable, et la télévision française était pas dans le picture, donc j'ai pu dire vraiment qui je voulais, j'ai pu dire j'ai envie d'avoir Mike Ward à jouer, et j'ai pu choisir qui je voulais sur le gala. Et du coup, c'était hyper sympa parce que tout le monde se connaissait, il y avait une bonne ambiance, le gala était homogène, et puis c'est pas de ces galas comme j'ai vu certains ici où tu vois qu'ils ont mis un humoriste pour la génération d'avant. Vous appelez quoi ça, les matantes. Et après, il y a un jeune parce qu'il faut. Enfin, il y a une espèce de formule magique pour la télévision ici. Puis nous, on n'avait pas ça. On avait juste genre des gens drôles. Et puis du coup,
mais
ça fait marcher.
Mais je pense juste un bon gars. Mais je pense, c'est ça qui me fait capoter à chaque fois. Tu sais, mettons ton gala que tout marchait. Puis c'était toi qui avais fait la programmation. Puis à chaque fois qu'il y a des galas, que c'est l'animateur qui dit « Je veux elle, je veux lui, je veux eux autres », ça marche plus souvent qu'autrement. Mais il laisse jamais... Ils font jamais ça. Au lieu, ils disent, on va faire un... Le monde aime les sketchs. On va faire des sketchs, juste des sketchs.
Non, mais il y a un truc. Simplement, parfois, les gens, ils achètent leur billet de gala en fonction de l'animateur. Mais ils disent, Mike Ward qui va animer, on va acheter pour Mike Ward. Et si c'est toi qui l'ai choisi, ça bah, tu connais ton public, ouais, puis il y a une cohérence. Donc, c'est logique.
Est-ce que toi, t'as le droit de choisir ou non?
Moi, je demandais à Québec, un peu tout plus, le temps d'avoir un droit de veto. Tu sais, fait okay. que je l'ai...
Qui est sur ta liste de veto?
Sur ma liste de veto, c'est arrivé... Ben, Mario Jean, c'était... Mario Jean, c'est une vieille affaire, là, tu sais. Mais j'essaie de penser. Non,
c'est... Jérémy Gabriel?
C'est que moi... Bon, ouais, non, c'est ça.
C'est moi qui l'ai dit, moi j'ai le droit.
Ouais, il serait sur ma liste. Non, mais j'ai pas une grande liste, mais c'est juste des fois... Souvent c'était... mettons, ils vont dire, « Hey, cette personne-là est super populaire dans tel show, on va les mettre. » Puis là, je dis, « Moi, mais je l'ai vu faire du stand-up, c'est pas super bon. Si on va chercher cette personne-là à place, qui est aussi connue, lui, ça va être super bon, ou elle, ça va être... » Mais... J'ai pas souvent utilisé mon droit de veto. Je m'en rappelle pas de l'avoir utilisé.
Alors, là, tu peux pas choisir le line-up.
Ben, moi, j'avais... Une fois, je faisais un show, j'avais dit, moi, ça me prend lui, il va faire un hit assuré. Puis ça avait pas bien marché. Puis après, je me sentais mal. Fait que là, je m'étais dit, je vais plus jamais dire, ça prend lui. Fait qu'au lieu, je me suis dit, je vais dire non.
Je vais pas prendre lui, ouais.
Puis je vais essayer de les influencer. T'sais. Fait que si, mettons, je veux, mettons que j'anime un gala, puis je veux Thomas, je dirais pas, mettez Thomas, je vais juste, au début du meeting, je vais faire, eh bon, Anastie, hein, Thomas Wiesel, est-ce que vous connaissez? Puis là, je vais montrer des vidéos, puis là, OK, parle-moi de whoever, puis là, un moment donné, ouais. J'espère que quelqu'un va le nommer.
Mais ici, les galas, c'est un nettement plus big deal aussi. C'est une grosse tradition, il y a des années derrière. Enfin, c'est
ouais, ouais, ouais.
À Montreux ou dans des festivals plus petits ou à Québec, j'ai l'impression que t'as plus de liberté aussi parce qu'il y a moins de gens qui ont leur mot à dire.
Moi, ce qui m'a impressionné de Montreux, c'est que tu sais le gala français qu'on faisait était vendu pour la télé, mais le gala anglais qui était vendu nulle part avait quand même le même budget puis le même, tu sais, puis là ils ont fait, on va essayer de le vendre.
Je crois pas qu'ils aient réussi, d'ailleurs.
Non, mais tu sais, au Canada, ça existe jamais. Il y a jamais personne qui fait « on va produire quelque chose en espérant le vendre ».
Je pense pas qu'ils vont le refaire non plus.
Non, ouais. Mais c'était pas la première fois qu'il y avait des galas anglais?
Je crois que c'était le deuxième gala anglais.
Ils essayent de le vendre.
Mais il y a pas beaucoup d'anglophones en Suisse. T'as vu, la salle était à moitié vide aussi.
Ouais.
C'était un peu...
Le calibre était bon, tu sais.
Ouais, il y avait des humoristes, beaucoup d'humoristes africains qui étaient très drôles.
Ouais, ouais. Tu connais-tu les humoristes de l'Afrique du Sud? Ils sont vraiment drôles. Ils sont Trevor Noah, là, mais. Puis il y avait Ronnie Chang du Daily Show ouais. qui est venu juste pour. Tu sais, mettons, il finissait le Daily Show vendredi à 5h, il a pris l'avion. Il est arrivé en Suisse, il a fait un warm-up show en arrivant. Le lendemain, le gala. Après le gala, il est retourné à New York.
Et c'est gentil.
Ouais, c'est vraiment...
Mais je me souviens, ce line-up était assez impressionnant. Il y avait Rachid aussi sur le line-up. Et il y avait un Nigérian qui s'appelait Basket Mouth.
Ouais, Basket Mouth, que lui... Moi, je le connaissais pas avant
non plus,
ça.
Mais c'est une énorme star.
Puis, même aux États-Unis, tu sais, il fait... Tu sais, c'est les Nigériens qui capotent sur lui. Puis, il anime un sitcom qui fait 300 épisodes par année.
What?
Tu sais, là, j'étais comme...
Qui écrit ça?
Comment ça marche, ça? Ça doit pas être bon.
Mais c'est genre des web-series.
Non, non, c'est à télé. C'est comme un... C'est l'équivalent d'un soap opera, mais ça se veut drôle. Puis, en fait, 300 par année. Puis... comme là, il est en tournée, il a fait le O2 Arena à Londres. Tu sais, 10 000 places, ça s'est vendu en une couple d'heures. Tu sais, à Chicago, il a fait où que les Blackhawks jouent. Puis c'était sold out. Puis c'est quand même weird que...
Oui, il était sur le petit show. Ouais, et je me souviens que la salle, il l'avait remplie en invitant tous les expats de la région.
Ouais.
Parce qu'il n'y a pas d'anglophones, donc ils étaient allés dans toutes les multinationales. Il y a beaucoup de Philip Morris, Japan Tobacco, des trucs de cigarettes. Et ils ont rempli qu'avec des expatriés qui ne sont pas suisses. Et ils m'ont dit, tu closes le show. après Mike Ward, Rachid Badouri, Basket Mouth. Non, non. Il faut, mais si, t'es le local de l'étape, les gens te connaissent. Je fais, ces gens-là, ils savent pas qui je suis. Et du coup, j'ai vraiment beaucoup stressé. Moi, je joue en anglais tous les deux ans, je crois. Donc, c'était un peu tough.
Quand t'étais à Dubaï, t'as pas joué en anglais?
C'est non, ça, c'était, ça existait pas encore.
Okay.
Nous, on avait fait Abu Dhabi et Dubaï. Et sur la route de Abu Dhabi à Dubaï, et il avait plu beaucoup. Et aux Émirats Arabes Unis, ils maîtrisent pas le système des gouttières.
Ok.
Ce qui pleut, je pense, tous les deux ans. Et du coup, la route s'est inondée. Et on était bloqué pendant 12 heures sur la route dans un minibus.
Oh shit!
On a dû annuler un des deux shows parce qu'on n'avait pas le temps d'arriver jusqu'à Dubaï. Et côté bloqué à cause de la pluie aux Émirats Arabes Unis, ça fait chier. Parce que tu dis, il peut m'arriver plein de trucs, mais je pense pas que la pluie, ça va être un problème dans le désert. Et on était, je crois, 4 humoristes dans un minibus et avec 4 gérants, avec 2 producteurs, dans un minibus genre 12 places, c'était insupportable. Plus personne riait aux blagues des autres, tout le monde riait plus qu'à ses propres blagues, on voulait tous se tuer. Rachid Badouri faisait des pompes, des push-ups dans le minibus.
Faisait des push-ups dans le...
Ouais. Oh.
Pourquoi?
Mais parce qu'on devenait fous.
Hey. C'est comme un appartement à New York.
T'étais pas 12. Et puis c'était le seul moment où t'avais les différentes couches de la société émiratique qui étaient mélangées. T'avais les mecs dans les Bentley qui sont les autochtones qui travaillent pas. Et t'avais les Pakistanais, les Bengalis, les Sri Lankais qui sont dans des jumpsuits orange qui travaillent. Et puis t'as les Européens qui viennent vivre une vie qu'ils peuvent pas avoir en Europe en exploitant les Pakistanais. Et puis tout le monde était bloqué sur la même route et c'était le seul moment où ils ont eu un peu de démocratie, donc j'étais un peu content.
Moi, j'ai passé proche à acheter le costume émirati. Tu sais, puis d'habitude, tu sais, le cultural appropriation. Parce que, tu sais, d'habitude, t'es pas supposé t'habiller comme un autre peuple, sinon c'est mal vu, tu sais, c'est de la... Mais là...
J'attends le mai.
Tous les émiratis, tu sais, parce que je leur demandais, je faisais, ça a l'air vraiment confortable, puis ils étaient comme... Tu veux que je t'en donne un? Puis j'étais comme, j'aimerais ça, mais j'étais comme, si je porte ça à l'aéroport, en arrivant au Québec, je vais avoir de l'air ridicule. Je vais me faire, tu sais, même en arrivant en Europe, je vais... Mais j'y
même
pense.
Devant le miroir.
Oh, non, je sais.
Dude, tu peux pas étonner.
Mais j'aurais aimé ça, faire un show avec. Tu sais, juste arriver de même et avec
je suis en train de t'imaginer avec un bitch.
C'est ça qui était weird. Ils me laissaient même pas... tu sais, nous, on n'avait pas le droit de boire. Puis, il fallait que je fasse livrer de la boisson à ma chambre d'hôtel. Puis qu'après, on buvait en cachette. Mais même sur scène, tu sais, je m'étais dit, oh, je vais arriver avec mon drink. Mais vu que je parle d'alcool, j'avais comme peur. C'était weird. Tu sais, il y a comme tellement de règlements.
Mmh. Mais tout le monde boit, là, en cachette.
Tout le monde boit en cachette. Puis c'est même légal, mais c'est...
Dans les hôtels, non? C'est légal.
C'est légal dans les hôtels. Puis il y a des liquor stores, mais il faut avoir une carte qui prouve que t'es pas musulman. Pour avoir le droit...
Ou ta face.
Ou t'as pas besoin de carte.
Ouais. Non, je sais. Non, mais... Sauf... ça prend... Tu sais, parce qu'un touriste a pas le droit d'acheter dans un liquor store. C'est juste un local qui n'est pas musulman. Fait que il y a comme 7 liquor stores dans le pays. Là, t'sais. Moi, j'avais acheté 2 bouteilles.
T'avais noté toutes les adresses, toi?
Hein?
T'avais noté toutes les adresses avant d'y aller?
J'ai un de mes amis que on dirait, chaque fois que je vais dans un autre pays, il me dit, « Hey, tu vas à telle place? » Lui, il aime le scotch. Il fait, « Ramène-moi telle bouteille de scotch. » Il vend dans tel liquor store. Là, je suis comme, je suis dans un pays musulman. Là, je n'irai pas me prendre ma carte pour te ramener une bouteille. Quand même, moi, les 2 bouteilles que j'avais achetées m'ont coûté 1 500 $.
Et c'est que des taxes?
Il me semble que c'est 1 500 $ pour 2 bouteilles. Puis j'avais commandé les 2.
Tu voulais vraiment boire, man.
Mais c'est parce que je savais pas que ça allait être cher de même. Puis il y avait Noman Osni qui est.
Tu savais pas la première bouteille?
Je pensais qu'il était suisse, mais j'avais demandé à Noman c'est quoi tu bois. Puis il avait dit il aimait les Jack Coke. Fait que là, j'ai fait, je vais acheter une bouteille de vodka pour moi, une bouteille de Jack pour lui. Puis là, je commande ça, il m'amène ça à ma chambre. Puis là, on dirait que je me sentais mal de faire, ah, je vais juste prendre un double de Jack. Puis, fait que j'ai fait, OK, Fait que je suis allé là-bas, je pense que j'ai été payé moins que ça pour mon voyage. Moi, il y avait eu... C'est ça qui était weird. Vu que c'est un show anglais, il m'avait dit de pas rire du roi. Parce que ils ont dit peut-être le roi va venir. Puis là, j'ai fait comment je vais savoir. Puis ils ont dit, s'il vient, on y met un trône en avant. fait que le stage, mettons, il y avait le stage. La première rangée de bain était à 25 pieds. Puis quand si le roi vient, ils mettent un trône entre toi et le public. Fait qu'il est là. Il doit même avoir un tigre à côté de lui qui flatte ou tu sais, quelque chose de weird.
Mais est-ce que ça veut dire que tous les théâtres, ils ont un trône?
Mais oui, ou qu'ils attendent c'est lui de... qui,
c'est lui qui l'amène vient
sur un U-Haul. Il a son trailer.
Je vais au spectacle, préparer mon trône. C'est bon.
Ouais, il y a un Bentley, mais avec une boule pour accrocher son trône. Mais c'était weird, tu sais. Fait que là, j'ai fait...
Okay. Fait que là, t'as plus le droit d'aller jouer aux Émirats. Si jamais ils ont vu ça, t'as ri du roi, c'est fini.
Mais, ouais, sûrement.
Mais il était venu finalement ou non?
Hein?
Il était venu?
Non, il est pas venu. Mais moi, j'étais heureux parce que là, il m'avait dit le roi aime pas la vulgarité. Fait que là, j'étais comme. Mais, tu sais, ils m'ont dit tu peux être vulgaire, tu peux faire ce que tu veux, mais si le roi, il est là, fais attention. Puis moi, en plus, j'aime ça faire du crowd work, puis je suis pas habile. Fait que je pointe la première face que je vois. Fait que si le monsieur est dans un trône, c'est clair que je vais y jaser, tu sais. Mais comme toi, t'as fait des shows en Haïti avec le président.
Ouais, mais là, c'était Sweet Mickey.
Sweet Mickey.
Ouais.
Sweet Mickey. Ouais, quel est ce bon nom? Sweet Mickey.
C'est le surnom du président?
Non, c'est.
C'est son nom d'artiste.
Ouais, c'est son nom d'artiste. C'est genre, il s'appelle Michel Martelly, mais c'est genre le roi du compas, man. Fait que. Puis c'est un fou, man. Il faisait des concerts habillé en femme, il portait des couches.
Il est du président?
Puis ouais, puis il s'appelait Sweet Mickey. C'est genre, c'est comme si c'est.
Moi, c'est des chansons vulgaires un peu qu'il chantait.
Non, pas toutes les chansons, pas man. Vulgaire. Il y a des belles chansons, man. Il c'est un artiste incroyable, man. Mais c'est dans le genre si Flavor Flav devenait le président des États-Unis.
C'est un peu ça qui est arrivé, par exemple, tu sais.
Puis c'était fou, parce qu'après le tremblement de terre, tu sais, le pays avait besoin de quelqu'un pour remonter l'esprit de l'Haïti, puis ils ont dit, c'est Wyclef ou c'est Sweet Mickey? Fait qu'ils ont
Mais je pense qu'il a de l'air à faire une belle job. Le monde a de l'air de l'aimer.
Au début, ouais.
OK.
Parce que c'est Sweet Mickey. Mais après, man, c'était terrible.
Ah ouais?
Apparemment, je sais pas, mais c'était vraiment 50-50. Le monde l'adorait, okay. Puis le monde le détestait. Puis moi, je l'adore en tant qu'artiste, man. Je n'habite pas en Haïti, mais c'est un artiste formidable, puis un charisme, un charme. Genre, il est drôle, man. Tu vas voir ses vidéos, Sweet Mickey.
Est-ce que tu aurais voté pour lui?
Ah, je vivrais pas en Haïti, man. Mais c'était fou, il était là au dernier show. Il était là au dernier show.
Toi, tu l'avais roasté en plus une fois?
J'étais censé le roaster il y a un an. Puis après, il y avait genre un hurricane warning. Puis genre, personne n'est venu. Genre, on était une centaine de... Ils attendaient genre 500 personnes dans la foule, mais il y avait 100-125. Puis pas venu finalement. Fait que j'ai fait mes Sweet Mickey jokes. Mais le monde, ça faisait peur parce que tout le monde. Ce qui est fou dans les.
Tu le sais pas,
mais moi je viens de l'apprendre dernièrement que, tu sais, quand tu joues en Haïti, puis ils sont genre 500, tu sais,
ouais, ouais.
La foule. Genre la moitié de la foule s'est fait kidnapper à un moment donné.
Ouais.
Ouais, parce que
pour venir au show.
Ouais, parce que tu joues genre pour le 1%. Mm. Alors c'est les super riches. C'est genre une autre gamme, hein, de...
Chris, je joue dans deux semaines, là-bas, trois semaines. Je vais me préparer semaines. Des jokes de kidnapping. Ouais.
Je vais...
Je me réjouis de ton crowd work.
T'as
déjà été kidnappé?
Tu sais, quand tu te fais kidnapper, là...
Dude, mais c'est fou, man. C'est genre...
Une personne sur deux. Moi, qu'est-ce qui est mauvais? Je suis le genre de personne facile à kidnapper, mais qui serait... décevant parce que, tu sais, je suis Je suis pas riche, tu sais, eux autres sont super, super riches, là, le monde qui vont voir ces shows-là.
Comment on ferait pour te kidnapper?
Ben, moi, t'as juste à ouvrir la porte, puis faire, tu veux-tu un lift, puis je vais faire, OK. Ouais,
une petite bouteille de scotch.
Moi, j'ai vraiment, la fois que j'avais été en Haïti, j'avais été, tu sais, ils s'occupaient, c'était la même gang qui m'avait amené, que, tu sais, ils s'occupent de nous là-bas, tout est payé, puis il y avait un soir, j'étais allé dans un bar, puis là, je voulais payer ma bière moi-même, là, tu sais. Fait que là, mais j'avais pas d'argent, j'avais pas de gourde haïtienne, puis là, il y avait un guichet, puis j'étais allé pour retirer de l'argent, puis un gars, il m'a dit, non, non, prends pas ce guichet-là, il y a trop de frais. Je vais t'amener un guichet qui a zéro frais. Et moi, j'ai fait, OK. Et là, j'ai suivi le gars. Puis je pensais que ça allait être dehors. Mais il a dit, embarque dans mon camion. Je suis embarqué dans son camion. Et là, on a roulé pendant...
T'es tout seul,
avec une dizaine de minutes avec le gars. Et là, je faisais... OK, je pense que je me suis fait kidnapper. Là, moi, tu sais... Puis là, on est arrivé au guichet. Puis là, moi, je pensais que je m'étais fait kidnapper. Fait que là, j'ai retiré le maximum que je pouvais retirer en me disant, il va faire, t'es kidnappé. Je vais faire, hey, là, 45 000 gourdes.
Ah, donc en plus, t'es coopératif pour te kidnapper.
Mais finalement, le gars, il m'a ramené au bar. Le gars, il aimait vraiment
pas les...
Mais le gars,
il travaillait au Caribé?
Non, c'était dans un bar. Je sais pas si c'était un client ou un employé du bar. Mais puis une des personnes que j'étais avec, quand il m'a vu arriver, il était comme, qu'est-ce que t'as fait? Parle jamais avec quelqu'un que tu connais pas. Puis j'étais comme, moi, non, je le sais, avec du recul. Ouais. C'est vrai, tu sais.
Combien de fois t'as rencontré des pédophiles quand t'étais jeune?
Quand j'étais petit, je buvais moins, fait que j'étais plus dur.
Ouais, mais j'étais dans une van, une fois, on est allé dans un party, puis il y avait un gars qui s'est fait kidnapper. Le gars qui m'a conduit s'était fait kidnapper. Puis il m'a dit... Puis, alors moi, je commence à... Il y avait beaucoup de cash, le gars. Puis je commence à paniquer un peu. Je dis, s'il s'est fait kidnapper une fois, tu sais, ça se peut qu'il se fasse kidnapper une deuxième fois. Puis il dit, ah, t'inquiète pas, c'est genre... Le char est bulletproof. Puis là, je me sens genre pire, man. Puis il dit, non, ils m'ont déjà kidnappé une fois. Puis j'ai dit, qu'est-ce qu'ils ont fait, man? Alors, ils m'ont traité super bien, man. Ils ont juste pris mon cellulaire. Puis... Puis that's it.
Puis ils ont demandé quoi? Ils demandent quoi en
retour? De l'argent, genre, je sais pas le montant.
C'est beaucoup. Parce que c'est le salaire moyen.
Paye. Puis après, je dis, mais OK, t'as attrapé le monde. Puis il a dit, on en a trouvé 2 sur 3. OK, puis qu'est-ce que t'as fait? Ben, on s'en est occupé.
Tabarnak. Fait que lui, il est plus épeurant que le monde qui kidnappe.
Ouais, c'est fou, man. Fait que...
Mais,
bonne chance, Mike.
Ben merci. Mais c'est comment tu penses? Ça doit pas être beaucoup, vu que le salaire moyen en Haïti pour les pauvres, c'est 600 US par année. Fait qu'ils doivent demander 5 000, peut-être?
Le
salaire moyen, c'est 600. Moi, c'est ça que je me sentais mal. J'étais comme, tabarnak, je fais rire tout le monde qui ont fourré les pauvres.
Qui n'a pas besoin de rire.
Ouais,
qui n'a pas besoin de rire.
Mais là, quand j'y vais, c'est un festival, puis là, ils ont des shows pour le vrai monde aussi, tu sais.
Ah ouais?
Ouais. Il va y avoir des shows en créole.
Mais c'est le festival de Steve.
Je peux faire semblant.
Ouais. C'est Steve qui fait ce festival.
Ouais, Steve, le gérant Rachid. Je sais pas si Rachid va faire des push-ups en Haïti. Moi, c'est Rachid qui anime le gala là-bas.
Ah, cool. Ouais. Ouais, j'aurais aimé, mais je peux pas. Ça doit être cool d'aller jouer en Haïti.
Ouais, moi, je trouve que c'est pour les Québécois, c'est la meilleure place d'aller en vacances parce que.
Puis il y en a des Québécois, même.
Tout le monde parle français, first ou quasiment. Puis le créole sonne très, très, très québécois. Tu sais, c'est pas moi, c'est moi. C'est moi, puis ils disent le mot pi. Fait que là, j'étais comme. C'est comme. Je suis au Québec, là, tu sais.
Mais c'est parce qu'aussi, il y a beaucoup d'Haïtiens à Montréal.
Ouais, non, c'est ça. Ouais. Ouais.
Donc, ça l'aide.
Mais c'est drôle, il y avait un des gars sur le show quand on y avait été. Il arrêtait pas de faire des jokes sur les chauffeurs de taxi. Vu qu'à Montréal, tous les chauffeurs, ben pas tous, mais il y en a beaucoup qui sont Haïtiens. Mais, tu sais, en Haïti, personne comprenait. Les références, surtout, c'est des petits bourgeois dans la salle qui sont comme, pourquoi ce monsieur-là nous traite de chauffeur de taxi?
Ouais, beaucoup d'Européens, man. Ils sont super bien cultivés, man.
C'est fréquent.
Mais est-ce que les chauffeurs de taxi sont québécois en Haïti?
Ouais, c'est tout des Québécois.
Ils comprenaient pas. Mais c'est lui le chauffeur de taxi, je crois.
Ah, ça serait malade. C'est tout des salut tabarnak. C'est où tu vas? Oh, yes. Moi, j'avais... L'affaire qui m'a fait freaker là-bas, pis c'est des kings qui m'avaient dit que ça allait me faire freaker, pis ça m'a fait freaker. C'était... chaque fois que je rencontrais des Blancs avec l'accent haïtien, je faisais tout le temps un... Tu sais, je leur fixais la bouche, pis ça me fascinait.
Ouais, on associait un haïtien avec un noir.
Ouais,
là,
c'est ça.
Genre, ils sont super offusqués, man.
Ouais.
Mais quand on vient ici pour les premières fois, puis qu'on voit par exemple des gens issus de l'immigration, des Arabes, des Noirs parler avec l'accent québécois, ça nous fait bizarre aussi.
Ouais. Ouais.
Parce qu'on a, pour vous, c'est normal, mais pour nous, les Québécois, c'est Céline Dion, c'est Rock Voisine, puis oui, il est acadien.
Rock Voisine, il est même pas québécois. Ouais,
mais non.
Il est pas québécois?
Non, il est acadien.
Ouais, non, mais. Ouais, mais ça, on essaie d'expliquer en France que Natacha Saint-Pierre et Rock Voisine sont pas québécois, les gens, ils t'écoutent
Qu'est-ce
même pas.
Qu'est-ce qui est drôle de Rock Voisine, tu sais, au Québec? Tu sais, quand il est arrivé au Québec, il a fait semblant de parler comme les Québécois, fait qu'il a pris l'accent québécois. Et quand il est allé en France, il a fait semblant de parler comme un Français. Et là, tous les Québécois étaient offusqués. Tous les Québécois faisaient « Pourquoi il fait semblant d'être Français? » Puis j'étais comme « Chris, il faisait semblant d'être Québécois. » Tu sais, c'est pas mal ça qu'il fait, là. T'sais.
C'est comme Shaggy, dans le fond.
Ouais.
Je crois que Shaggy vient de Brooklyn.
Shaggy?
Ouais, Shaggy parle pas de même.
Ah ouais, c'est non? Vrai? Ouais. Shaggy!
Ouais, tout le monde vient de l'apprendre.
Là, on est au master.
Ouais, il parle genre super bien, genre américain, man.
Il a pris un accent.
Ouais. C'est un accent fake, man.
Ouais, tu te rappelles de Lil Jon?
Ouais.
Le rappeur qui fait que de crier, puis tu le vois en interview, puis le mec, il sait faire des phrases.
Ben ouais, c'est comme le dude de Informer. C'est qui le blanc qui chantait?
C'était Snow.
Snow, c'est ça. Ah, ben ouais,
il venait de Toronto, hein?
Ouais, il vient de Toronto.
Lui, en plus, pour son street cred, il disait tout le temps qu'il avait pas le droit d'aller aux États-Unis, vu qu'il y avait un dossier criminel, mais il disait tout le temps ça dans des entrevues à télé américaine. Puis là, il expliquait que non, mais moi, pour rentrer, il faut que je contourne les États-Unis. Puis là, il expliquait, c'était weird. Il disait, je prends l'avion de Toronto jusqu'à Hawaï, puis là, je peux revenir. Puis là, en tout cas, ça, moi, je sais pas pourquoi ça me marquait. J'étais comme...
Dis-le pas à la télé.
Ouais, pourquoi, tu sais?
Il travaille plus, là.
Non, je sais. Ouais. Snow, mais je pense qu'il y a personne qui se disait, je pense que Snow va avoir une longue carrière.
Je sais même pas qui c'est.
Ah, Snow, il chantait.
C'est genre le Vanilla Ice du reggae.
Ouais, c'était le Vanilla Ice du reggae.
Canadien du reggae.
Ouais. C'était le Vanilla Drake.
Ouais.
C'était Vanilla Drake.
Et il a une moins longue carrière que Vanilla Ice.
Ouais. Vanilla Ice est super riche, par exemple, maintenant.
Ah ouais?
Moi, j'ai vu une vidéo de lui cette semaine qu'il donnait des conseils, genre à Justin Bieber. Puis, tu sais, pour quoi faire avec son argent. Puis, il y a encore, tu sais, il y a une grande maison, il y avait une piscine. Puis, tu sais, peut-être qu'il travaille là aussi, là. Tu sais, peut-être. Parce que, ouais, il était dans la piscine, mais il avait comme un bâton, puis il frottait. Pendant qu'un Mexicain, il disait quoi faire, mais... Ça, c'est... Moi, c'est... Tu sais, comme... Dans le temps, MC Hammer, il y avait deux avions. Moi, ça m'avait tout le temps marqué. Il y avait deux avions, une pour lui, puis une pour ses pantalons. Je sais pas si c'était
c'est
vrai.
Joke,
non, mais il avait dit ça en entrevue, puis sûrement qu'il niaisait, mais ouais. Moi, j'avais 9 ans, puis j'étais comme... Oh, fuck. Ça, c'est...
Mais il était jeune, MC Hammer, man, quand il avait ce succès, man. Puis c'est ça, puis c'est pas eux qui décident. Tu sais, comme Vanilla Ice, c'est pas lui qui a décidé d'être Vanilla Ice. C'est l'industrie qui l'a shapé, puis c'est fou, man. Il avait quel âge, genre 20 ans, 21 ans?
Ouais,
mais t'es super jeune, tu fais n'importe quoi.
T'as-tu déjà vu la vidéo de Vanilla Ice qui essaie d'expliquer, c'était à MTV, que c'est pas le même beat que
Under Pressure.
Ouais, qu'Under Pressure. Tu sais, qui dit, non, Under Pressure, c'est dum 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 dum. Puis Vanilla Ice Ice Baby, c'est dum 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 dum. C'est l'affaire la plus...
Mais ils ont payé le sample. Hein?
Non, non, ils n'ont pas payé le sample.
Ça, ça se peut pas, même.
Puis finalement, avec tous les droits qu'il y a eu, il a juste acheté la toune. Fait que là, Under Pressure, c'est lui qui a les droits maintenant.
Wow.
Ouais. C'est avec ça, apparemment, qu'il a fait son argent. Je connais trop d'affaires.
Ouais, ça, Vanilla Ice.
Je suis comme, à chaque année, je suis comme, pourquoi Vanilla Ice n'est pas au Comic-Con, Nasty? Je vais attendre en ligne pour parler à Vanilla Ice.
Et ça fait 2 ans de son podcast qu'il attend qu'on lui pose ouais. la question sur Vanilla Ice.
J'ai juste parti sous écoute en espérant. Sur ça, je m'en vais au monde à la fin. Poser des questions, si possible, sur Snow. Là, vous autres, c'est quoi qui arrive après le festival?
Ben moi, je suis comme toi, je suis pas dans le festival.
Ouais, toi, t'es juste venu ici pour vivre l'été de Montréal puis écrire.
Ouais, et puis j'ai pas écrit.
Ok.
Mais
pourquoi t'as pas écrit?
Je sais pas, je suis un peu bloqué. L'écriture, des fois, moi, c'est si je me dis que je dois écrire, j'écris pas.
Okay.
Et puis ça vient quand je fais autre chose. Mais là, je force, ça marche pas. Mais du coup, j'ai fait un peu des shows. Je me suis rajouté sur les shows. Il y a un français qui a annulé, et puis du coup, je l'ai remplacé dans les maudits français.
Ok.
Et j'ai fait hier, j'étais sur le Note Gala de Jay Dutombe, c'était très okay. cool. Et puis j'ai joué ici, donc j'ai joué plus que j'ai écrit. Mais ce qui s'en vient, moi, je fais un pilote de late show à la télévision suisse.
Oh, nice.
Mais qui sera à 20h, parce qu'il n'y a pas de late show à la télévision suisse.
Ouais, comme au Québec, tu sais.
Ouais. Donc, on va essayer de faire ça en Suisse. On ne sait pas si ça va marcher, mais du coup, on fait le pilote, puis la télévision va nous dire s'ils achètent ou pas. Donc, on fait ça à la fin de l'été. On va essayer d'écrire. Le problème aussi en Suisse, c'est qu'il n'y a pas d'actualité.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Il se passe pas assez de choses pour faire une émission qui réagit à l'actualité.
OK.
Il se passe quoi?
Ben, pas grand-chose. La politique suisse est très calme de façon générale et on n'a pas de star system à part Roger Federer qui est la star la plus lisse au monde, donc il n'y a jamais rien à dire à part il a gagné. Et du coup ça va être peut-être ça le challenge, c'est de trouver de la matière à faire chaque semaine, mais on va essayer, puis sinon on parlera de la France et du Québec.
Okay.
Je sais pas. Mais du coup, c'est ça, je vais travailler là-dessus. Et
ah,
puis,
mais moi, va quasiment falloir que ton monologue soit de ce qui s'est passé à l'international.
Bah, dès qu'il y a une actu suisse, on va la traiter.
Ouais, ouais.
Et puis, les 9 autres fois sur 10, on va faire l'actu internationale. Ouais. Je pense que ça va être ça, on verra si la télévision va oser. Parce qu'en Suisse, la télévision, en termes de divertissement, ils sont encore restés assez loin, quoi.
Okay.
Vous connaissez Alain Morisot ici, non?
Oui. Bah, Alain Morisot, est-ce qu'il est connu en Suisse?
Ouais, mais il est connu par mes grands-parents, vraiment. Okay. C'est et lui, il a les samedis soirs à la télévision, genre 6 ou 7 fois par an. C'est lui qui, genre, le divertissement suisse, c'est Alain Morisot. C'est lui avec ses instruments. Et donc, ils ont de la peine à se renouveler. Ils en sont un peu restés là. Et du coup, c'est un peu difficile de faire accepter. Alors, il y a eu une émission d'humour qui a très bien marché. Ils font une pause et pendant la pause, on essaye de faire notre émission. On verra.
Ok.
Donc voilà, peut-être vous allez en entendre parler, sûrement pas.
Ah, mais est-ce que tu connais Dan Gagnon?
Ouais. De nom, j'ai jamais croisé parce qu'on n'est pas dans le même pays, mais ce serait un peu ça. Ce serait un peu inspiré de John Oliver, de Louis T, qui le fait très bien ici, et de ce qu'a fait Dan Gagnon en Belgique, essayer de faire ce format-là, quoi.
Okay. Pas, avec combien de writers?
Ça, c'est un peu le truc, je sais pas, j'ai pris tous les humoristes de Suisse, et donc on est 6.
Ok. C'est ça la beauté, par exemple. En plus, en engageant tous les humoristes, t'es sûr que dans le milieu, ça va être un succès d'estime, tu sais. Dans le milieu, tout le monde, ça va être leur show préféré, vu qu'ils travaillent tous dessus.
T'sais. Ben, c'est ce que tu disais avec Gilbert et ses amis, ils seront payés pour aimer ce show.
Tu vas arriver avec tes lunettes croches.
Qu'est-ce qu'ils ont faire, mis?
Ouais, sont belles tes lunettes, Thomas.
Merci beaucoup. Merci, Mike.
Et toi, qu'est-ce qui arrive?
Après?
Oui.
Après le festival?
Oui.
Ben, je rentre chez nous.
Mais, tu penses-tu, c'est ça que je te demandais, tu penses-tu à un moment donné faire une tournée soit québécoise en français ou du Canada français, Nouveau-Brunswick, Ontario?
Je sais pas, même. Je le ferais, mais tu sais, ma vie c'est à New York, puis ma famille est là, puis j'ai un enfant de 3 ans, puis tu sais, je veux pas partir pendant, tu sais, 5-6 mois. Fait que.
Mais 5-6 mois, c'est long, hein, esti, pour aller pour une tournée.
Mais vos tournées ici sont genre. C'est pas un an?
Ouais, c'est 3 ans, mais c'est ridicule. Ouais, ouais. Tu sais.
Je quitterai jamais, man. Je quitterai peut-être un mois et demi.
Mais tu sais, tu pourrais faire, tu sais, de New York, tu pourrais faire, mettons, tu viens faire, mettons, Trois-Rivières, Sherbrooke, tu fais 4 soirs, puis après tu retournes. Tu sais, tu pars 4-5 jours.
Ouais, mais j'ai besoin d'un agent.
OK. Mais Charles m'a dit, Charles Deschamps, qui est ici, va commencer à faire ça.
Ah ouais?
Ouais. Ouais.
C'est le premier sous-écoute entretien d'embauche.
De nuit. Je comprends pas.
Mais il veut se lancer en gérance.
Mais il gère Rosalie Vaillancourt déjà, je crois.
Ah, c'est-tu déjà fait? Chris m'a parlé de ça hier, puis il a déjà signé.
Non, ça fait un petit moment qu'il s'occupe de Rosalie Vaillancourt, je crois.
Non, mais j'aime ça. C'est vraiment une communauté vraiment tight ici, man. Mm. En français, c'est fou, man. C'est genre tout le monde s'aime. Tu considères qu'il y a de la concurrence? Parce que moi, je trouve pas
vraiment.
Que tout le monde s'inspire.
Mais le bordel, il est pour beaucoup, j'ai l'impression. Ouais, vous retrouvez
bordel,
beaucoup ici.
Ouais, c'est le meilleur comedy club que j'ai joué de ma vie. Même.
Moi aussi.
Aussi, mais merci.
De loin.
Moi aussi.
Merci. Mais vraiment, bravo.
Bravo. Merci. Bravo.
C'est genre... J'ai jamais vu ça, man. Le staff, tout le monde, les propriétaires, les humoristes, c'est de l'amour pur. Parce que même vos ratings sur Yelp, c'est genre 4.9 sur 5.
Ouais, ouais.
C'est du jamais
mais
vu.
Mais tu sais, ça, c'est sûr.
Je vais aller mettre un
4 étoiles. Un 4 étoiles,
tu sais, le staff ici est écœurant. Ouais, c'est puis écœurant dans le sens québécois, pas dans le sens européen. Là, mais. je le sais que tu comprends.
Je comprends. De toute façon, en Europe, écœurant, on dit jamais pour des gens, à part si tu les manges.
OK. Si tu veux.
Donc. Je sais pas. Luca Magnotta, il pourrait dire ça. Ouais. Luca Magnotta, il pourrait dire cette personne-là est écœurante parce qu'il en a trop mangé. Mais nous, ça se dit que pour les aliments.
Comment tu fais connaître autant de références québécoises?
J'ai des problèmes.
Okay. C'est-tu, tu sais, comme mettons, est-ce que t'es déjà allé jouer en Belgique?
Oui.
Est-ce que tu connais autant de serial killer belge puis de pédophile belge ou de monsieur qui se masturbe dans un parc? Ou...
Oui. Non, mais avant d'aller quelque part, j'essaie de me renseigner sur ce qui se passe. Si j'ai un ami dans le pays, je vais dire quels sont les scandales, quelles sont les choses dont les gens parlent, quels sont les trucs qui font jaser dans les bars, des choses comme ça, et puis j'essaie d'écrire là-dessus. Et pendant l'année, maintenant comme je viens souvent au Québec, je suis abonné à un journal sur Internet, La Presse.
Okay.
Et puis du coup, je reçois des articles, puis je fais défiler comme ça. Puis dès qu'il y a une news qui me paraît intéressante, je la sauve. Puis quand je suis sur le point de venir, je prends tous les articles. Et puis j'ai beaucoup d'humoristes. Pourquoi vous riez? J'ai beaucoup d'humoristes québécois sur Facebook. Et puis je regarde leur statut. Et puis je dis ok, ils font des jokes là-dessus. C'est-à-dire que ça, c'est un sujet qui est porteur. Et du coup, j'arrive à m'inspirer d'un peu ce qui se passe dans le milieu de l'humour. Je fais pareil pour la France.
Ok.
Voilà.
Parce que ça m'impressionne vraiment. Vu que moi, tu sais, c'est ça qui m'a impressionné. Hier, t'avais comme 7-8 jokes locales, puis j'étais comme, j'ai même pas une joke locale.
Mais t'es plus malin que moi parce que toi, ton matériel, tu peux le faire partout dans le monde, il marche. Et moi, je dois me faire chier à chaque fois que je change de ville. Ouais.
Mais c'est ça qui est plate. Souvent, avant, je pensais pas de même, mais là, des fois, je pense à un gag, puis je dis, c'est vraiment drôle, mais là, je fais, il marchera pas nulle part. Tu sais, quand j'ai des références trop, j'essaie de penser. J'ai pensé à une joke de Rocco Magnotta hier, puis là, je me disais, ça, pour le faire marcher, il faudrait que j'aille une bite sur lui, que j'explique, merci, j'explique c'est qui, avant, tu sais, puis là, je sais comme c'est trop compliqué pour un gag de mauvais, là. Tu sais, mon gag était mauvais en plus.
Oui, j'en ai.
Je pense que moi, dans l'humour, on m'a conseillé une fois. Tu connais Paul Ranka qui travaille à Just for Laughs? Il m'a donné le meilleur conseil, man. Il m'a dit, genre, si tu veux écrire une joke, assure-toi que c'est universel, puis. Timeless, intemporel.
Ouais.
Ouais. Puis comme ça, genre, dans 20 ans, ça va marcher. Ça marche n'importe où, avec n'importe quelle, genre, démographie. Puis ça, à chaque fois que j'écris quelque chose, mais je parle jamais de... Genre, toute une joke sur Cosby, là, est vraiment nice.
J'ai eu, ouais,
ouais, c'est ça. Ouais, je travaille sur ça maintenant. Mais moi, tu sais, après 3 semaines, man, personne ne va plus en parler, ou après 1 an, 2 ans. Puis tu sais, c'est cool que... Moi, je trouve ça nice, le monde qui vont investir le temps à faire ça, parce que c'est tellement éphémère. Mais après, tu mets tellement d'énergie, tellement d'efforts. Moi, j'aimerais que ça... Moi, j'aimerais... C'est écrire un matériel qui va durer 5 ans, mais même si tu vas laisser tomber dans 5 ans.
Non, mais vous avez raison. Moi, je suis célibataire et j'ai pas beaucoup d'amis, donc j'ai le temps de...
Mais je pense...
Mais je pense, vous avez raison. Moi, ça m'a impressionné. Hier, je t'ai vu et tu faisais des gags sur l'amour véritable, l'amour dans le couple. Ça, je me suis dit, c'est incroyable parce que ça marche partout. Et moi, j'arrive pas à écrire ce genre de blagues. Si on me donne pas une contrainte de sujet, si je me dis pas, tiens, je vais écrire là-dessus, j'ai plus de difficultés. Donc, c'est pour ça que j'écris. Moi, je fais le contraire de le conseil que t'as donné. J'écris que des trucs éphémères et locales.
Mais moi, je trouve ça super nice.
En Suisse, je vais dans des villages et j'écris 5 minutes sur le village.
C'est vrai, hein?
Ouais. Et le village, je le connaissais pas avant d'y aller et je l'aurais oublié en partant, mais les gens sont contents parce que personne leur a jamais parlé de leur village.
Moi, avant, ma dernière tournée, mon avant-dernière tournée, c'est sur mon défi. Chaque fois que j'arrivais dans une nouvelle ville, je voulais rouvrir avec 5 minutes sur eux. Puis, mais
ils
après,
ça,
je suis devenu vraiment lâche, par exemple, parce que, tu sais, après, quand je revenais, au lieu de réécrire, j'étais comme, je vais juste prendre les 5 minutes.
Et tu changes les noms.
Puis là, ça, par exemple, je faisais pas ça, parce qu'à chaque fois, je changeais les noms. Moi, ça paraît trop. Il y en a qui sont capables de faire, mettons, si on a un gag sur le restaurant cheap local, ils changent de ville, ils changent de restaurant, ça marche. Ouais. Moi, ça paraît. Moi, j'ai juste...
Puis il y a toujours une ville qui est éteinte aussi. Genre,
ça, je fais jamais ça.
Ouais.
Mais j'ai fait ça dans mes premières années. Là,
tout le monde l'a fait. Ça, c'est comme des petits trucs, man. Que t'as
oui, puis les gens apprécient tellement qu'après, la qualité de la blague n'a pas besoin d'être aussi haute.
Ouais.
Même des fois, tu dis, j'ai vu ça. C'est quoi cette histoire? Et puis les gens rigolent déjà parce que t'en as parlé, puis t'as ouvert le journal, puis t'as googlé le nom de leur village.
Ouais, puis le monde sont... Moi, je me rappelle, j'avais vu... Robin Williams, quand il était à l'époque, il était encore vivant, là.
J'espère que tu l'avais vu quand il était vivant, man.
Hier.
Ça aurait été incroyable comme histoire, sinon.
Je l'ai déterré. Dernière fois, j'étais allé, puis. Mais moi, je l'avais vu, puis il faisait comme 15 minutes sur Montréal. Puis son matériel sur Montréal m'avait vraiment impressionné, plus que tout son vrai matériel, tu sais.
Mais il a peut-être vu un comique montréalais la veille.
Ouais, peut-être. Mais
il faisait beaucoup ça, je crois.
Ouais, ça se passe.
C'est la rumeur.
Ouais.
Non, mais c'est une méchante blague, mais.
Mais moi, je pense que. Qui le sait, man? Pour moi, c'est un génie, ce gars-là, man.
Oui.
Mais. Puis des fois, ça doit vous arriver, des fois, man. Tu vois une joke, tu vois un humoriste, t'aimes la joke, puis 3 ans plus tard, t'écris la même joke.
Mm-hmm, bien sûr.
Puis tu l'as.
Tu l'as internalisé.
Puis tu penses que c'est ton idée. Ouais, ça arrive souvent aux humoristes, puis après, quelqu'un va dire « Yo, man, t'as volé le bit de... » Puis non, c'est moi qui l'a... Puis après, tu vas revoir la vidéo.
Ah oui, j'ai vu ça. Ah, ouais. Mais ça, c'est pas grave, tant que tu t'en rends compte, puis t'arrêtes.
Ouais, des fois, on se rend pas compte.
Non, mais si quelqu'un te le dit...
Tu sais, ce qui est important, c'est quand quelqu'un te le dit, puis tu le réalises, tu l'enlèves.
Mais est-ce que vous le dites, si...
Moi, je le dis tout le temps, maintenant.
Tu le dis tout le temps.
Ouais.
Moi, j'ai 10 minutes sur le fait que j'ai mis ma graine dans une flûte de champagne.
Ça, c'est la joke de Robin Williams, man.
Mais ça, j'avais eu... Moi, en France, j'avais... Tu sais, Gad, il y a un peu cette réputation-là. Puis,
mais tu sais que moi, j'ai cherché, j'ai jamais réussi à trouver des preuves de ça.
Mais moi, je l'avais vu faire un numéro de Martin Petit quasiment identique. Puis la beauté de Gad, c'est que l'année d'après, je l'ai vu faire le même numéro, mais il l'a modifié, fait que ça paraît aucunement.
OK.
T'sais,
mais moi, j'ai beaucoup vu ça au Québec, man.
Ah ouais?
Ouais. Surtout, genre, il y a 7
ans,
8 ans.
Il y a 10 ans, ouais.
Ouais. Parce que il y a plein d'humoristes qui sont bilingues, puis ils vont chercher, genre, Eddie Murphy, 1983-84. Puis il y a des Québécois qui parlent pas l'anglais, puis ils connaissent pas.
Puis voler du Eddie Murphy.
Voler du Eddie Murphy, man. C'est, pis c'est malade.
C'était-tu des... Pis c'est drôle, des jokes de faggots and AIDS and...
Ouais, c'est ça.
What's up with Richard Nixon, hein?
Je crois que son premier numéro s'appelle dans son album, c'est Faggots.
Ouais, c'est le même qui commence ouais, son album.
Après, son prochain album, ouais. C'est genre Faggots Revisited. Ouais.
Il y avait une humoriste en France qui avait volé des blagues que fait Adam Sandler dans son film sur le stand-up, là, Funny People. Putain, mais ça,
c'est
comme...
C'est quoi, c'est qui? C'est...
Je vais pas dire qui c'est, mais Adam Sandler, il a fait un film qui s'appelle ouais, Funny People, où il joue un mec de stand-up.
Quelqu'un volait...
C'est encore pire qu'un spectacle, ouais. C'est des millions de personnes qu'on
voit. Moi, j'ai vu dans Funny People une joke qui était identique à une joke de... Bon, tu connais Ryan Wilner?
Ouais, ouais, ouais.
Tu sais, il a fait la joke de J-Date. Tu sais, si tu veux chercher... si les nazis reviennent puis veulent chercher ils veulent trouver tous les juifs, ils ont juste allé à J-Date. C'est une joke de Ryan Wilner. Ouais, ouais. Il a fait depuis genre 10-15 ans, man.
Ils l'ont peut-être racheté, puis, non?
Non, ils l'ont pas racheté. Ah, puis il l'a vu, man. Il l'a vu au cinéma. Et qui le sait, man? Il y a aussi du parallel thinking.
Ouais, ouais, ouais.
Ça se peut, mais c'était bizarre à voir, man. La joke était identique, man. Puis il n'y a personne qui contrôle ça dans l'humour.
Mais ça, moi, je pense, par exemple, c'est important de quand quelqu'un te le dit, d'arrêter de le faire. J'en ai parlé souvent ici. Moi, j'avais la même joke que Julien Tremblay il y a une couple d'années. Puis Michel Sigouin me l'avait dit. Puis là, il m'avait demandé c'est quand je l'avais écrit. Puis j'avais vu que Julien faisait plus longtemps, vu que j'ai fait « OK ». Je vais trouver quelque chose d'autre. Mais il y a du monde que des fois tu leur dis,
ils
sont comme, non, c'est moi qui l'ai écrit. Ouais, je le sais, mais lui, il a écrit la même chose. Non, mais je ne l'ai pas volé. Ouais, mais who cares?
C'est la même crise d'affaires. On s'en fout. Même.
Juste.
Oui, il ne faut pas qu'il y ait le doute.
Il faut le laisser. Tu sais, moi, c'est ça.
Vous avez vu cette caméra cachée? Quand je suis venu il y a 2 ans, Gilbert Rozon, il s'était mis en tête de faire des caméras cachées. Donc tous les humoristes européens ont passé dans son bureau. Et il nous piégeait. Et je crois qu'on était 6 et il y a 4 pièges qu'on n'a pas réussi. Et c'était pas un très bon ratio.
Il y en a un que c'était pour voler un numéro.
C'était ça, c'est pour ça que j'en parle. Ouais, c'était Fary. Tu vois qui c'est Fary qui joue un peu ici. Ils avaient fait ça très bien. Ils avaient pris Pierre-Bruno Rivard qui était allé enregistrer un numéro de Fary dans un comedy club. Et il était arrivé et ils avaient montré la vidéo en disant « Ouais, je suis mal à l'aise, il y a ce numéro qui a été fait en 2011 au festival. » Et c'était mot pour mot le texte de Fary. Et Gilbert lui disait « Alors, qu'est-ce que t'as à dire ? T'as volé les blagues de cet humoriste. » Et Fary, il paniquait, il suait, il était là. C'était très, très drôle. Ouais, c'était très, très, très drôle.
Et tu voles pas de matériel, man. En France, j'ai entendu dire qu'ils volent beaucoup.
Plus maintenant.
Non?
Je pense plus maintenant. À l'époque, c'est parce...
Si t'es bilingue,
tu sais, vu que le stand-up est comme assez nouveau, j'ai l'impression que la vieille génération, faire du Shakespeare ou faire du Seinfeld, c'était la même chose.
Oui.
Tu sais, c'était juste... c'est comme le théâtre. J'en ai parlé, j'ai fait le podcast à PB Rivard, puis là, je parlais du vol de joke, puis là, dans les commentaires, c'était comme, mais non, tu sais, en musique, le monde font des covers, mais on dirait le monde ne comprenne pas que l'humour et la musique, c'est pas la même chose.
Michel Leb, il a fait un truc, il a fait un spectacle où il joue un chef d'orchestre, et c'est, je crois qu'il a racheté le spectacle d'un humoriste américain qui est décédé en plus, dont le nom m'échappe, mais il a jamais dit vraiment s'il avait pris les droits, et puis il dit que c'est un hommage. Donc il a traduit un show, puis il dit c'est un hommage.
C'est un hommage, au moins. Tu reconnais au moins que... Mais c'est mieux que...
Mais à l'époque, moi, j'entendais dire que genre Roland McDan ou des mecs de cet âge-là, ils venaient dans les comédies clubs à New York, ils se mettaient au fond.
Cosby, puis c'est McDan qui volait tout de Cosby. Ou non, c'est Raymond DeVos qui volait beaucoup
de Cosby. Non, DeVos, c'était des jeux de mots, donc je pense que lui, il pouvait pas voler. Okay. Sinon, ça aurait été vraiment bizarre, des jeux de mots traduits.
Ouais, non.
Je pense que c'est Roland... Enfin, je sais pas, j'ai pas vu de mes propos yeux, mais McDan, c'est ce qu'on disait sur lui.
OK.
Mais ça se voit beaucoup, man. Puis surtout dans les petites villes. Mais même ici, man, je vois beaucoup de prémices qui ont déjà été faites aux États-Unis. Tu le vois clairement. Peut-être la joke va d'une autre direction, mais...
Ça, je trouve que c'est la pire, prémisse, par exemple. Moi, je trouve que c'est pire voler la prémisse que le punch, parce que trouver un punch, c'est facile. Mm-hmm. Mettons, si... On sort une prémisse là, puis on brainstorm les trois, on va sortir un gag facilement, mais c'est l'idée du number qui est plus long à trouver.
Je peux te faire une petite parenthèse?
Oui.
C'est drôle ce qu'il raconte avec le hoax que c'est Gilbert Rozon qui a fait ça.
Oui, la caméra cachée, oui.
Parce que ça, c'est un concept volé à surprise, surprise. Il avait fait ça à Jim Corcoran. Il l'avait fait venir dans un bureau pour lui dire, regarde, il y a quelqu'un qui a fait ta toune, puis il avait fait passer une vidéo comme de quoi
c'est
que...
C'est drôle, voler...
Un con, ouais. Voilà un concept.
C'est drôle,
mais,
ça.
Tu sais, puis même... Même à Juste pour rire, il avait fait le même coup à Louis-José Hood, puis c'était Alain Dumas qui faisait un numéro à Louis-José Hood.
Ah, donc c'est un truc sur le plagiat qui a été plagié.
Mais moi, ouais.
Mais c'est top. Mais au moins, aujourd'hui, avec YouTube, puis genre, quand t'as accès à l'Internet...
Mais les Québécois, excuse... Les Québécois que t'as vus, est-ce que tu penses qu'ils savaient ou...
Je le sais pas, man. Mais j'en ai vu beaucoup, man.
OK.
Ouais.
Mais moi, il y a un truc aussi, on est tellement d'humoristes à chercher des blagues sur les mêmes sujets, les mêmes trucs de société. Si c'est une blague, ça me choque pas. Si c'est une prémisse, si c'est... Tiens, moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois, du brainstorm avec des potes, ils sortent un truc, t'es là, non, ça, j'ai déjà entendu, parce qu'on cherche sur les mêmes avenues. Mais quand c'est 3-4 blagues, quand c'est un bit, là, ouais, ça commence à me choquer. Moi, si c'est un joke, je suis là, bah, tiens, c'est marrant, il a le même joke. Tu vas le dire si jamais c'est des personnes qui travaillent dans le même pays, parce que tu veux pas qu'il y ait un doute. Mais ça, ça peut arriver.
Mais si une joke me vient trop facilement, tout de suite, je me dis, ah, c'est déjà été fait. Je suis certain, man. Faut genre 3 étapes, man, pour moi. Genre, OK, c'est une bonne idée, mais d'abord, si j'ai l'idée, je vais faire la recherche. Je vais demander à tous mes amis, man, est-ce que t'as entendu cette prémisse?
Ça doit être long d'écrire un numéro. Tu sais, pour de vrai.
Non, parce que tu veux l'originalité, man. Tu veux la pire, mais tu le sais, man, la pire affaire que tu... Tu sais, c'est...
Fait, ou alors tu déménages en Suisse, puis t'es sûr que personne n'a fait ce joke, parce que personne fait de joke.
Fait que moi, je pogne mon idée, puis après je demande à mes amis, est-ce que t'as entendu cette idée? Non, je check, puis après genre, OK, je vais approfondir ça peut-être à 2-3 niveaux, puis là j'essaie de créer. Puis c'est tough, parce que tout a été déjà fait. Hein. Ouais. C'est genre, on a tout vu dans l'humour quasiment. Si je pense que... Le dernier comic, genre, la voix originale, c'est genre Mitch Hedberg, c'est le dernier à être genre, c'est différent, man. Puis après, Mitch Hedberg, il y avait toute une vague de style de Mitch Hedberg.
Oh, ouais.
T'sais, puis, mais au moins, quand tu racontes tes idées, tu racontes ta vie, man, personne peut voler ça, man. Personne peut voler Thomas, la vie de Thomas. Personne veut voler la vie de Mike. Ah.
Mais ceux qui ont essayé sont déjà décédés. Je...
Là, mais... c'est qui pour vous autres, votre, c'est qui d'après vous autres le meilleur humoriste de tous les temps?
Mike Ward.
Non, mais selon vos goûts.
Moi, je peux pas répondre ça, man. C'est impossible. Tout le monde a un talent, genre Robin Williams a un talent que Chappelle a pas, puis Chappelle a quelque chose que genre Chris Rock a pas, puis Chris Rock a quelque chose que Murphy a
mais
pas.
Mais celui qui t'a le plus peut-être inspiré, qui t'a le...
Moi, je pourrais jamais répondre à cette question. Tout le monde m'inspire différemment, même. Puis c'est pas seulement des humoristes, c'est comme des artistes, la musique, c'est genre...
Moi, on dirait... C'est niaiseux, tu sais, je vais par... tu sais, comme, là, de ce temps-ci, j'écoute beaucoup de Norm Macdonald.
Mm. Ah, Norm, c'est fucking...
Puis, en plus, j'oubliais...
C'est Norm Macdonald!
Mais,
thank you!
J'oubliais tout le temps, quand le monde me demandait c'est qui ton humoriste préféré, je le nommais jamais même dans mon top 5. Puis j'ai découvert récemment que je pense que c'est mon préféré de tous les temps. Mm. Qui...
Mais ce qui me fait chier, moi, c'est qu'il y a, des légendes, man, à New York que personne connaît, man. Il y a un talent tellement profond. Puis ils sont pas des vedettes, sont pas des superstars, puis ils sont au même niveau que genre Burr, CK, McDonald, Chappelle. C'est genre, c'est fou, man. Puis
tu parles des gars comme Mattel ou en bas de ça
Mais genre Gary Goldman. Puis okay. Là, on commence à le connaître à cause de Netflix. Mais Gary Goldman, man, tu le vois, man. Tu regardes son numéro, puis c'est genre, c'est le futur, man. Il est fou. Gary Goldman, c'est un malade. Il est incroyable. Regarde son number sur Conan. C'est genre,
Je pense que l'affaire que le grand public... Tu sais, il était dans Last Comic Standing dans une des premières saisons. Puis il avait fait une... Dane Cook avait fait une série puis lui de genre en tour, des openers.
Ouais. Puis c'est un génie, man. Puis même si tu regardes genre Woody Allen, t'as déjà entendu son stand-up? Fou, man.
Mais il est souvent dans les listes de top stand-uppers, machin.
Ouais. Puis il en a pas fait longtemps en plus.
Puis ça, c'est l'exemple parfait.
Après, il a violé ses enfants.
L'exemple parfait de universel, universel puis intemporel.
Ça devait être dur, ouais. C'est ça, Woody Allen. Tu sais, là, vu qu'il est réalisateur, personne, tu sais, parle de son petit côté mauvais père là, tu sais.
Mais bon mari.
Ouais. Mais bon mari, ça dépend pour laquelle, tu sais. Mais sauf
les mauvais pères, ça dépend pour laquelle aussi.
Lui en tant que stand-up, ça serait horrible ça. Imagine moi ce que j'ai vécu. Tu sais, je me faisais écler non-stop. Fait qu'imagine si j'avais fourrer un enfant, comment que...
Enfin, si les gens savaient que t'avais fourré un enfant.
Ouais, exact.
Mais il a...
Ça, c'est drôle. Je peux-tu juste... Mike Patterson, l'année passée, pendant que je vivais mon affaire, il arrêtait pas de me défendre, mais il disait tout le temps qu'il comprenait pas. Il était comme, I'm for Mike. J'ai entendu dire, OK, I'm not sure what happened. I know he had sex with this kid.
Mike?
Ouais,
il dit toi?
Mike Patterson, but he's such a good dude. He's a good dude. He's a vegetarian. So what if he had sex with one kid? Puis là, il partait. Puis il disait juste ça à du monde qui m'insultait. Comme pour me défendre.
Mais t'as pas une vibe pédophile, man?
Non, zéro. Moi, Chris, je suis zéro. Ben non, j'aime pas les gens.
Je suis zéro pédophile.
Non, mais tu sais, je pense. Moi, j'ai jamais rien à dire à un enfant, je suis pas.
C'est plus genre serial rapist.
Ouais, c'est ça, je pense. Ouais.
Mais t'as pas de vibe.
Ouais, puis même serial rapist, il faudrait. Je suis pas assez physique. Je serais.
Pills.
Ouais, pills, ouais. Je suis le prochain Cosby. Je suis le young white Cosby. Mais. Non, c'est ça, mais ça me faisait rire que... Puis en plus, il m'appelait pour me dire ça. « Hey, je viens de dire à du monde, t'es un pédophile. » Puis là, je riais.
Quand t'as des amis comme ça, t'as pas besoin d'ennemis.
Hein. Ah ouais.
Il y en a assez, Mike. Mais tu l'avais rencontré, Cosby aussi.
Oui, j'ai fait... Moi, j'ai fait la première partie à Bill Cosby. Ouais. La même été que j'avais fait The Q avec John Gomeshi. Puis, fait que sur mon CV anglophone, j'avais deux affaires. J'avais The Q with John Gomeshi, puis Open for Bill Cosby. Puis là, Gomeshi, c'est turns out to be a rapist. Puis Cosby,
turns out to be a rapist.
Fait que là, j'étais comme, OK, bon, j'ai plus de CV en anglais. Fait que mon CV en anglais, c'est French comedian. Cosby, est-ce que c'est...
Mais pourtant, il était nice avec toi.
Non, mais... Non?
Tu m'avais dit qu'il était bizarre, mais...
Il était weird, mais il était friendly. Ouais. Il était friendly,
je m'en souviens.
Mais il était weird. Avant le show, il était très weird, puis après qu'il m'avait entendu sur scène, j'imagine, tu sais, il était comme... Oh, OK.
Tu devais être clean, en plus. Tu devais jouer clean.
Oui, j'étais... ouais. J'ai pas sacré.
C'est le Dubaï des humoristes, un peu Cosby.
Ouais, Cosby, c'est le ouais, c'est exactement Dubaï. C'est, il y a plein de règlements, mais il y a une pute russe qui pleure dans une cage, dans le sous-sol de l'hôtel, tu sais.
C'est, ouais.
Ouais, mais dans le cas de Cosby, elle savait pas que c'était une pute jusqu'à qu'il la paye. C'est ça. C'est... Elle l'apprend à ce moment-là.
Mais c'est ça qui est bizarre, c'est que on dirait que tous les génies ont un vraiment un dark side, man. On parlait de Woody Allen, on parlait de, tu sais, genre de Cosby, mais
je sais pas si Einstein comme... était de même ou.
Mais lui, il couchait. Ça, il était au cou. Je crois qu'il a marié. Si je me trompe pas, je crois qu'il a marié sa cousine. Puis elle.
Non, mais ça
puis
va.
Elle savait. Il disait genre moi je vais coucher avec d'autres femmes. Puis elle le savait. Puis c'est genre c'est un peu twisted genre de d'accepter ça, man. C'est un génie, t'as pas le choix, man. T'es genre, OK. Ah. C'est genre, pis c'est sa réalité, man. Mais tout le monde est genre, il me semble, tu sais, Robin Williams.
Mais Einstein, moi j'avais entendu un truc débile, c'est qu'il aimait pas les chaussettes parce qu'il disait qu'elles avaient tout le temps des trous.
Qui
mais
ça?
Einstein.
OK.
Mais il se coupait jamais les ongles des pieds. Et c'est un génie. Donc des fois, t'es un génie dans certains domaines oh, ouais. et dans d'autres pas. Et des fois, je
faut
crois
sacrifier.
Qu'il
sacrifier. Ouais.
Et je crois qu'il avait aucun sens pratique. Des fois, il était perdu, puis il devait téléphoner à sa femme pour demander où il habitait ou des choses comme ça. Il était.
Ah oh, ouais.
Ouais. Je crois qu'il était assez fucked up.
Je savais pas. Moi, je savais. Moi, je connais juste Vanilla Ice. Vanilla Ice.
Mais reparle-nous de Vanilla Ice. Robert Van Winkle ou un truc comme ça.
Ouais, c'est ça,
je crois.
Robert Van Winkle. Ouais, c'est ça. Pendant que toi, tu googles qu'est-ce qui se passe au Québec, dans un petit village de la Suisse, moi, je suis comme Vanilla Ice. Google Alert.
Ça doit être une Google Alert assez calme. Ça vibre pas souvent.
La première fois qu'il a sonné, c'est en 2001.
Avant les Google Alerts.
Là, Yann, ça fait une heure et demie. OK, parfait. Là, je vous avant qu'on aille aux questions, y a-tu quelque chose que toi t'aimerais demander à Daniel ou toi à Thomas?
Que moi j'aimerais demander à Thomas?
Ouais. Y a-tu comme tu sais, t'es jamais allé au Montreux, au festival de Montreux. C'est-tu quelque chose que t'aimerais faire?
Non.
OK. Parce que,
je comprends,
c'est weird que ça c'est je trouve c'est très New York humoriste new-yorkais comme attitude. Toi c'est rare que tu fais genre des mettons aller headliner une fin de semaine à Saint-Louis. Toi tu te bases plus à New York que
c'est un autre monde, man. C'est genre tout le monde fait des 15-20 minutes. C'est genre tu peux headliner, il y a deux clubs où tu peux headliner, c'est Caroline's puis Gotham. Pis genre, tu dois être une vedette, c'est genre, tu sais, les Wayne's Brothers ou, tu sais, mais genre, pour moi, les meilleurs humoristes, genre, de New York, ils font, tout le monde fait des 15, genre, Attell, tu sais, Halberstadt, Alexandro, Gullman, Natterman, tout le monde fait genre des 15-20 minutes, man. Pis c'est ça le stand-up.
Mais, tu sais, pour, mettons, tu ferais plus d'argent si t'irais on the road.
Ben ouais, mais si tu quittes New York, c'est genre une affaire qui s'appelle, c'est bizarre parce qu'il n'y a pas ça à Montréal, mais il y a une affaire à New York qui s'appelle FaceTime. Sinon, on parle toujours de stage time, c'est super important le stage time. Mais là-bas, c'est pas seulement le stage time, mais
c'est juste
avoir
ta face.
Ouais, ouais. Si on voit pas ta face, mais on t'oublie, mais il y a 3000 à 5000 humoristes. Fait qu'on doit constamment voir ta face. Genre, Mike, I remember ouais. Mike. Oh, Mike was here. Tu sais, genre, pis le... Out of sight, out of mind.
Pis il y avait... Moi, un moment donné, je parlais à Colin Quinn, pis...
Moi pas.
Colin Quinn, pour moi, c'est genre un Norm Macdonald.
Ouais, 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 il est vraiment, vraiment
incroyable.
Drôle. Mais il y avait... Je me rappelle plus c'était qui l'autre personne que j'étais avec qui disait, « Hey, j'ai fait une joke... » Puis ça détruit, c'était super bon. Puis là, il était comme, is it funny or is it Philly funny? Tu sais, il disait, c'est-tu drôle à Philadelphie ou c'est drôle
ouais,
pour
ouais,
de vrai?
Ouais, 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 ouais.
Puis là, je voyais, puis ça, à chaque fois que je suis à New York, je sentais que, tu sais, New York, c'est la seule place qui existe pour bien du monde de New York.
Mais tu sais quoi? C'est. Il y a beaucoup de monde qui pense ça, mais c'est pas vrai, man. Il y a du talent partout. Il y a du talent à Montréal, il y a du talent, tu sais. Il y a du talent. Ah non, je l'aime bien, Thomas, c'est pour ça pourquoi je rigole. Mais non, mais c'est vrai, tu sais, comme je disais au début, Montréal, c'est une bulle, mais New York, c'est une plus grosse bulle. Mais c'est une bulle pareille. Puis il faut que tu sortes de New York des fois parce que t'es poigné dans le rythme, puis t'es genre un... C'est comme a rat in a wheel, tu sais, genre tu bouges pas puis tu stresses puis y a tellement d'anxiété puis c'est lourd comme ville, man. Moi à chaque fois que je quitte, je suis super heureux d'être ici, tu sais.
Moi ce serait ma question justement à toi, pourquoi?
Pourquoi?
Pourquoi New York?
Masochiste.
Ouais.
Il y a un côté, il doit
bon, on est tous un peu les humoristes, mais pas à ce point.
Non, il y a des niveaux. Puis je crois aussi que c'est vraiment, c'est cheesy, mais c'est Frank Sinatra. If you make it there, you make it anywhere.
Well, what if you don't?
If you don't, you fucking end up like Robin Williams.
Puis, tu sais, je t'en ai parlé hier, puis je t'en parle souvent, mais aller faire... tu sais, parce que faire des shows en français, ouais, c'est bon pour ton... Tu sais, aux États-Unis, être... parler le français, ça montre que t'es cultivé. Puis, c'est weird, tu sais. Non, mais puis si tu faisais des shows en plus en espagnol, là, tu serais.
Ouais. Non, mais c'est ça qui est cool, man. C'est genre, moi, je savais vraiment pas comment on allait m'accueillir ici. Tu sais, j'avais le gala il y a samedi, puis j'ai un autre rythme, je le sais jamais, même si ça marche bien au bordel, tu sais, je le sais pas comment ça va marcher à la Place des Arts. Puis c'est nice de savoir que tu peux traduire le matériel, que ça marche en français, que ça marche en anglais. Puis c'est puis ça revient encore, tu sais, à trouver quelque chose d'universel. Tu sais, mes jokes d'aujourd'hui, je sais que ça va marcher en espagnol. Okay. Je sais que ça va pouvoir marcher.
Ta famille, Tirado, c'est péruvien?
C'est... Ben, ouais, techniquement, mon père, il vient du Pérou, mais je crois que c'est un nom portugais ou... Je crois que, genre, les Portugais ont violé les Incas, puis...
OK.
Puis j'ai un nom de violeur. Genre, ou victime, tu sais, je suis moitié victime, moitié violeur.
C'est souvent comme ça,
ouais. Fait que c'est weird. Non, mais c'est vrai, c'est soit espagnol, soit portugais... Mais Tirado, c'est pas okay, c'est pas péruvien. C'est
mais
pas,
tu parles pas portugais, pardon?
Non, je parle espagnol.
OK. Okay.
Je parle espagnol.
Mais parce que ça pourrait être cool, même ça ferait un bon documentaire de genre voir un gars à New York qui fait « je vais faire une tournée du Pérou ». Puis une tournée du Pérou, ça doit prendre 4 jours. Là. Tu sais, c'est pas un très grand pays, il me semble.
C'est énorme.
Ah ouais, c'est vrai. OK. J'avais l'impression que c'était petit.
Non, c'est gros. C'est un des plus gros pays d'Amérique du Sud.
Non, okay, mais l'Amérique du Sud, je connais rien.
Mais. Vanilla Ice.
Vanilla Ice. Vanilla Ice, j'aime jouer au Pérou.
Back to Vanilla Ice.
Et le mec, il nous fait Vanilla Ice, ça fait une tournée du Pérou en 82. Il a fait 8 shows sold out.
Mais ouais, ça ferait un bon documentaire, par exemple.
Mais regarde, toi, comment tu te sens, man, quand tu vas à New York? Parce que, tu sais, toi, en tant qu'humoriste québécois, genre, c'est quoi, toi, ta vibe quand toi, tu retournes? Je t'ai vu au Stand Comedy Club, j'ai vu... Est-ce que tu as joué au New York Comedy Club aussi?
J'ai fait le New York Comedy Club, j'ai fait le Gotham.
J'avais pas vu Gotham, mais j'ai vu au Stand.
Puis j'avais fait le...
Puis comment toi, tu te sens en tant qu'humoriste, genre... Est-ce que tu te sens nerveux? Est-ce que tu mets dans ta tête genre l'idée de New York?
Moi, qu'est-ce qui était weird? À chaque fois, je pensais que le monde allait me regarder de... Tu sais, comme vu que j'étais pas un gars de New York, comme j'étais de la merde qui arrivait. Puis j'ai pas eu ce feeling-là.
Tu sais, parce que personne n'est de New York. Il y a tout le monde, c'est genre de partout le monde. C'est très rare de trouver un New Yorkais pur laine.
Mais moi l'affaire que j'aimais moins... Ouais. Que j'aimais moins, c'est que je me disais, j'avais du fun, mais là, je me disais, mettons, m'établir à New York, faire des shows, j'aurais trop de gigs de marde comparé aux gigs le fun. Tu sais.
Mais c'est ça qui c'est ça qui te forme, man. Tu dois passer. Moi, ça a complètement changé mon humour, ça a complètement changé mon style, ça a complètement changé, tu sais, genre. J'ai vécu tellement de merde à New York.
Mais moi, je pense... Mais
tu sais, genre...
Ça donne pas envie, Daniel, quand tu vois.
Non, mais moi, je le sais, ça donne pas envie, mais tout le monde... Je crois que moi, j'avais besoin de le faire.
C'est que je me disais, si, mettons... Toi, je pense que t'es allé au meilleur moment dans ta carrière. C'est juste là, moi, on dirait que ça me tente pas...
Mais c'est ça qui est vraiment cool, man. Parce que toi, t'es... à un niveau, puis tu revenais à chaque mois, mais à chaque mois ou 2 mois, tu dois pas le faire.
Ouais, ouais.
Mais tu veux.
Mais
tu
là,
veux le feeling.
Vois-tu, je vais recommencer à le faire, mais j'attends d'avoir mes papiers.
Ouais.
Donc, j'avais pas mes papiers.
Moi, je trouve ça vraiment courageux, man. Parce que
tu vas faire ton heure en anglais, c'est ça?
Ben là, je veux faire... l'année prochaine, je vais faire mon heure à Just for Laughs.
Mm-hmm.
Puis après, on veut le... pas cette heure-là. Avant ça, je veux capter une heure pour essayer de le vendre à quelque part, ou même le donner à quelque part, là, tu sais, mais pour, tu sais, vu que mes...
Build up.
Mes credits, tu sais, là, j'ai perdu Cosby. Fait que...
Toi, qu'est-ce que t'as sorti du
mais
niveau?
Mais Cosby.
Hein?
Qu'est-ce que t'as sorti du niveau à New York? Parce qu'il y a plein de merde aussi à New York.
Ouais, mais
il y a genre une quantité incroyable
moi,
de merde.
Moi, j'ai resté bête à quel point qu'il y avait du monde mauvais.
Ouais, mais oui.
C'est
genre, c'est lui,
mais vu qu'il y a tellement d'humoristes, ouais. il y a plus de meilleurs, mais il y a plus de mauvais. Puis je restais bête qu'il y en avait des mauvais dans des clubs qui avaient du sens. Tu sais, j'avais fait un show au Gotham. Puis, genre, il y avait deux personnes sur le show que je regardais, puis ça faisait...
Tu catchais
pas. Ça avait pas de sens.
Ouais.
C'était très open micer, là, tu sais. Ouais. Puis c'était pas un open mic. Mais le calibre, quand c'est bon, c'est vraiment bon.
Ouais. Mm. Puis c'est ça que... Je crois que j'ai la plus grosse leçon à New York... Puis c'est cool de Thomas aussi, parce que Thomas a un style très conversationnel, tu sais. C'est que le silence dans le stand-up, c'est une note. Mm. Tu sais, moi, quand j'avais commencé le stand-up, j'avais beaucoup plus d'énergie. Tu m'avais vu au début, tu sais. Parce qu'un humoriste, il a tellement peur du silence d'habitude. Quand tu commences, genre, c'est effrayant, tu sais. Tu veux juste entendre ta voix ou des rires. Ta voix ou tes rires. Puis, c'est là que j'ai appris à New York que des fois, le silence, man, c'est ton meilleur ami. Puis mais ça prend du temps aussi.
Ouais, puis ça prend de la confiance.
Puis de tomber en amour avec ce silence. Moi, j'adore le silence maintenant. J'adore quand genre personne rit, man. Check maintenant, là.
Mais tu sais, vois-tu, moi, j'aime New York. Il y a une chose que j'aime, c'est que il y a encore de l'humour agressif que.
Oh, il y a de tout.
Que tu sais, mettons à Londres, ils ont perdu le edge qu'il y avait. T'sais, avant,
c'est super brainy.
L'humour noir à Londres, c'était l'affaire qui marchait le mieux. Puis là, ils sont très, très, très PC. Puis New York, t'as quand même des
mais New York, c'est dark aussi. Ouais, dark, mais ils se font beaucoup critiquer maintenant. Le PC, tout ce qui arrive avec Trump maintenant, c'est fou, man. Les humoristes, ils se font tellement critiquer. Des hecklers, si t'es contre Trump, pour Trump, c'est weird, man. Avant, tu pouvais te moquer de Bush, tu pouvais te moquer d'Obama, tu pouvais te moquer de n'importe quel président. Puis aujourd'hui, maintenant, tu te moques de Trump, puis genre, c'est fini, man. Puis c'était pas le même avant, tu sais. C'est weird, man, ce qui arrive aux États-Unis maintenant.
Mais j'ai l'impression que les extrêmes ont trop... parlent trop, tu sais. Mettons, si t'es au centre... Puis tu dis ton opinion, là, t'as la droite qui va t'insulter, t'as la gauche qui va t'insulter. On dirait le monde, là, il marche juste avec des insultes.
C'est weird parce que c'est le rôle de l'humoriste, tu sais, t'as la permission de dire quoi que ce soit.
C'est vrai?
Quoi?
C'est vrai?
Qu'est-ce que t'as dit?
J'ai dit, est-ce que c'est vrai?
Est-ce que c'est vrai?
Ouais.
Ben, ça dépend combien t'as d'argent, je crois, c'est ça.
Ouais. Mais, ouais.
Non, mais ça devrait être ça. Mais...
C'est genre le fou du roi. Mm. Tu peux tout dire.
On est censé être un contre-pouvoir. Après, est-ce qu'on l'est vraiment? Ça, c'est un vaste
débat.
Ouais, maintenant,
avec l'Internet, c'est fini, man. Tu peux plus rien dire. Ce qui est arrivé avec Richard Kramer.
Ouais, ouais.
Tu sais, il y a 10 ans, genre 15 ans, ça serait pas... Il serait correct.
Ouais, ça l'aurait juste été un mauvais show.
Exactement.
Ouais.
Mais je pense qu'il y a aussi un truc, c'est cette scrutiny, le fait que les gens ils regardent un peu plus, ça nous force à être meilleurs. Parce qu'on peut plus rire aussi facilement. J'adorais hier quand tu racontais l'humoriste qui se moque des minorités, qui dit « Ah, les Chinois, vous avez des petits pénis, les Italiens, c'est la mafia. » Ça, à l'époque, ça marchait, et maintenant, tu peux plus. Et donc, il y a des côtés négatifs, et je pense que ça va s'équilibrer un peu à l'excès de PC, de politically correct, mais je pense qu'il y a plein de côtés positifs aussi, où ça nous a forcé à chercher plus loin que les clichés, plus loin que les trucs hacky depuis 20 ans qui marchaient encore. Maintenant, tu peux plus faire carrière si tu fais que de te moquer des stéréotypes raciaux.
Mmh.
Et ça, moi, ça me fait plaisir.
Puis Carlin aussi, il en parlait de ça. Carlin, il disait que... Tu sais, c'est facile de se moquer des inférieurs, mais il faut vraiment attaquer genre le man on top, tu sais, le gouvernement, le monde qui te fourre, man. c'est, tu sais, comme Dice Clay, ça marchait bien dans les années 80, mais, tu sais, il se moquait des homosexuels, des noirs, des latinos. Puis ça reflète aussi le pays, le racisme du pays, puis, tu sais, il y a une vérité là. Ouais. Mais c'est beaucoup plus facile que d'attaquer le monde qui nous fuck. Puis Carlin, il croyait que le travail de l'humoriste, c'est d'attaquer le monde qui nous fuck. Pas d'attaquer le monde qui sont déjà fuckés. T'sais, ils sont déjà fuckés, man. Faut pas les marcher dessus, en plus. Mm. Ça aussi, c'est un défi. Puis d'un côté, si t'as envie de prendre cette responsabilité ou de pas le prendre, c'est ton choix en tant qu'humoriste, mais si tu vas attaquer quelqu'un qui essaie de te fourrer, tu sais.
Mais toi, tu sais, vu que tu disais que tu t'allais juste vers des choses intemporelles, ça veut dire que tu peux jamais vraiment faire de la critique sociale, vu que les temps changent. Fait que si, mettons, tu parles jamais de leader ou de gouvernement dans tes trucs?
Moi, j'essaie d'éviter la religion puis le gouvernement parce que ça donne rien. C'est genre, on entend ça tous les jours à télé, les nouvelles, puis ça détruit l'esprit, man. C'est toujours négatif. Moi, je regarde plus les nouvelles, je lis pas le journal. T'sais, si j'apprends quelque chose, qu'il y a un ouragan ou je l'apprends sur Facebook, moi, je suis rien. Je veux jamais m'approcher.
Quand il y a eu le hurricane qui a touché New York, tu l'as appris quand t'es snitching.
Ouais, exactement. Je faisais l'amour avec ma femme de toute manière, alors. Mais c'est... T'sais, moi, j'aime pas ça, man. J'aime pas ça. C'est tellement dégueu parce que c'est toujours du bad news. C'est toujours, toujours, toujours du bad news. Puis on est devenu genre drogué, man. On a besoin, tu sais, genre, I need more bad news. Puis c'est pas nécessaire, man. Fait que...
T'es pas un vrai masochiste.
Mais non, parce que je suis tellement masochiste, man, que j'essaie de m'en sortir. Puis c'est vrai. J'essaie vraiment de... Tu sais, faut des good vibes, c'est une bonne énergie, mais les nouvelles, man, c'est genre... Alors moi, j'évite la religion, puis j'évite le gouvernement, parce que tu vas toujours diviser une foule. Toujours. Puis si je veux raconter une joke, man, moi, mon travail, c'est de vous permettre de vous échapper de la réalité de tous les jours, tu sais. C'est pas de vous fucking... T'sais, si je vous parle de Trump, à tous les jours, vous entendez des affaires de Trump, man, du gouvernement, on se fait fourrer. Mais moi, je veux... Pour moi, ça va être un voyage.
En plus, moi, je trouve les jokes de Trump, la plupart du temps, sont des claps faciles, tu sais. Mettons, surtout
c'est,
quand t'es pas aux États-Unis.
C'est très difficile de faire des bonnes blagues sur Trump.
Ouais, vu que toi, t'as
été dit... Ouais, mais il y en a des très bonnes. Puis quand il y en a une très bonne, c'est genre comme Bill Burr quand il a fait une joke sur Arnold Schwarzenegger, mais tout le monde a fait une joke sur Arnold. Tout le monde a fait « Rah, rah, ouais. Get down! » Tu sais, combien de fois t'as entendu ouais. ça, man? T'es genre « Ah, oh, come on, not another ouais. Arnold joke. » Mais lui, il a fait une joke Arnold, genre « next level, man. »
C'est quoi sa joke?
C'est genre, la prémisse, c'est genre, il a commencé de rien, man. Il a commencé, il était, je crois que j'étais un chauffeur, man. Il débarquait, il conduisait genre un camion, man. Puis d'un camion, il a fait de la musculation, puis de la musculation. Il est passé genre au cinéma, puis il est devenu du cinéma, il est devenu gouverneur d'LA, tu sais. Puis genre... il était dans la zone pendant 20 ans, man. Puis après, tu sais, il fuck la femme qui travaille sa bonne. Puis tout est fini, man. Puis là, on l'a condamné, mais il était dans une zone pendant 20 ans, man. Puis il fait la voix, puis il raconte tout, man, avec la voix, puis ça devient plus hacky. Parce que la joke est tellement profonde, man. C'est comme Chappelle aussi, il fait ça, man. Il prend des jokes que t'as entendu partout, man. C'est genre des premises qui sont genre super... C'est commun, tu sais. Mais lui, il atteint un autre level. Mm. Puis c'est comme... Tu sais, on dit toujours, genre, évite les jokes sur les avions, puis la douane, puis... Puis c'est facile, puis tout le monde le fait. Mais si tu trouves, genre, un joke qui est genre... un angle que personne n'a touché, man... que personne n'a fait. C'est pour ça pourquoi moi je demande toujours à mes on a tous genre des amis des humoristes qu'on admire, que puis moi, je lui demande, est-ce que t'as entendu cette prémisse? T'as entendu? Non, je l'ai pas. Ah, je l'ai entendu. Ok, fuck. Je vais pas la faire. Ouais.
Moi, j'avais. C'était Guillaume Wagner qui est probablement la personne que je connais qui a consommé le plus du monde dans sa vie. Puis, dans mon dernier show, j'avais envoyé le show juste pour qu'il ait les textes, tu sais, juste pour qu'il fasse. Genre, ça ressemble un peu à telle affaire. Tu sais, pour pas que je parte en tournée avec un number que tout le monde fait. Ah, c'est qui est mauvais. Tu sais, Roseanne a fait ça.
Puis c'est bizarre parce que beaucoup d'humoristes, ils évitent de voir ce qui est accessible.
Ouais.
Puis moi, je trouve que c'est ta responsabilité de savoir qu'est-ce qui a déjà été fait. Puis sinon.
Je vais envoyer mon show à Guillaume Wagner aussi.
Ouais. Non, mais tu y as-tu envoyé à Guillaume?
Non, mais il va être content, il va en recevoir plein maintenant.
Ouais.
Mais tu sais, je trouve ça important. Tu sais, c'est notre travail de savoir. Tu sais, c'est comme. C'est comme les lumières. Voltaire savait ce que Rousseau faisait, il savait ce que Montesquieu. Tu sais, c'était pas genre mon monde. C'est genre.
Mais je trouve que ça dépend à quelle période de ta carrière t'es. Moi, je considère que je suis encore un peu dans mes années formatrices et je consomme moins d'humour qu'à l'époque parce que j'ai trop peur d'être influencé trop.
Ouais, c'est ça. Ouais, beaucoup de monde, ils ont peur d'être influencés.
Moi, je regarde beaucoup dans les comedy clubs. Quand je viens dans un comedy club, j'essaie de regarder tous les autres artistes. Quand je fais un gala, j'essaie de regarder les autres artistes. Mais Netflix, je regarde assez peu. Et j'ai peur parce que à l'époque, je regardais beaucoup Pierre Desproges. Moi, c'était un peu le premier que j'ai regardé. Et au début, quand j'ai commencé, j'avais vraiment tous les trucs de Pierre Desproges.
Okay.
Et là, ça doit faire 6 ans maintenant que j'en fais, 5 ans et demi. Donc je pense d'ici quelques années je vais me remettre à consommer beaucoup d'humour, mais pour l'instant j'ai envie vraiment de trouver qui je suis moi avant de nouveau ouvrir à tous les autres. Et je pense que c'est compliqué. Je vois beaucoup d'humoristes qui regardent 2-3 spectacles par semaine et au bout d'un moment tu deviens une espèce d'amalgame de tous les gens, donc c'est assez différent. Mais est-ce que c'est vraiment toi? Moi c'est...
Mais tu peux jamais perdre si c'est personnel. Genre Mike, tout ce que tu fais c'est tellement personnel, genre t'as pas à t'inquiéter, tu vois ce que je veux dire? Alors si tu restes personnel, t'es safe.
Ouais, ouais.
Parce que personne partage ton histoire. Il y a genre no worries. Mais si t'essaies de faire des observations, là ça devient tricky parce que.
Mais souvent, moi j'ai remarqué dans les dernières années, puis je l'avais remarqué quand Louis est devenu populaire aux États-Unis, que quand j'allais en France, souvent les humoristes prenaient.
Ils essaient de faire du Louis.
Un peu l'espèce de delivery de Louis que avant.
Ouais, mais il y a toujours quelqu'un qui va, tu sais, toujours quelqu'un qui va t'influencer. Il y a toujours une voix que t'essaies. Tu sais, Chris Rock, c'était Eddie Murphy. Eddie Murphy, c'était Richard Pryor.
Richard Pryor, c'était la cocaïne.
C'est aussi.
Pryor, c'était Cosby aussi.
Ouais.
Tu sais, ouais.
Ouais, mais.
Certains aspects de Cosby.
Parce que Pryor, il était clean.
Ouais, d'abord. Il était clean un peu au début.
Ouais,
puis
il
après...
était super clean. Cosby, c'est son hero. Ouais. Ouais. Puis après.
Heureusement qu'il est mort avant.
Mais c'est ça, man. Si Cosby était mort il y a 10 ans. Exactement. Il y aurait une légende.
Tout aurait été correct. Ouais. Sauf pour 60 femmes, là, mais. Ou 600.
Mais je sais pas, parce qu'en Angleterre, ils avaient, comment il s'appelait, Jimmy Savile, celui qui présentait les émissions pour enfants. Et c'est dès qu'il est mort que tout est sorti.
Ah ouais, ouais.
Donc les gens, ils attendaient. C'est un vieux monsieur, il travaille plus, il fait plus rien. Et dès qu'il est mort, ils ont sorti toutes les histoires où pendant des années, il avait abusé des enfants. Donc ça aurait peut-être été ça avec Cosby.
Mais comme nous, le Claude Jutras, qui était nous, les Oscars.
Ouais, ils ont changé le nom. Comment ça s'appelle maintenant?
Ça s'appelle les pédophiles. C'est les prix du cinéma. Ils ont fait on prend plus de risques. Les prix du cinéma.
Et c'est encore le dark side.
Ouais.
Il y a toujours genre tous les génies ont genre vraiment un dark
Mais
side.
Mais moi je suis content que maintenant après ta mort des trucs de même sorte. Tu sais non mais pour pas tu sais que pour pas qu'on voit ce monde là comme des légendes puis quand c'était des monstres.
Oui.
Non, mais non. Weird. J'ai un animateur de foule.
Au moins, tout le monde le sait que maintenant, Toi, c'est toi le monstre. Ouais. Ouais.
Ouais, quand tu vas mourir.
Ouais. Bon, quand tu vas mourir.
Tout.
Ben, imagine ça, man.
Ouais.
Mais non, mais c'est vrai, tu sais, c'est genre.
Moi, faut pas que je meure tout de suite parce que j'ai pas encore fait les conneries qui pourraient sortir.
Moi, le pire, toutes les affaires que j'ai faites mauvaises ont sorti.
Tout le monde le sait, man. Ouais. C'est genre, t'es super open.
Ouais, ouais.
Tu le partages avec le public aussi. Fait que ouais. C'est...
Mais ce que t'as fait quand t'étais blackout?
Ouais, mais au moins, c'est Jean-Thomas Jobin qui me disait, j'ai l'alcool heureux. Fait que, tu sais, quand je suis en blackout, je suis pas agressif. Fait que, je me suis pas battu. Je sais que j'ai pas agressé personne. Je suis pas lover, puis je suis pas combatif. Fait que, tu sais, quand je suis en blackout, je suis juste boué, puis je m'endors.
Tu montes ta graine, mais tu l'utilises pas.
Ouais, c'est ça. Mais je monte, mais il y a pas beaucoup de dégâts que tu peux faire avec une graine molle, tu sais. T'es en blackout. Non, mais...
C'est vrai. Non, c'est vrai.
T'sais, hey, je vais te l'effoirer sur toi. C'est juste...
On va mettre ces citations sur ta tombe, ouais. Mike. Il n'y a pas beaucoup de dégâts que tu peux faire avec une graine molle. Je trouve que ça résume ta vie.
Ça serait un bon T-shirt. Là, on va aller avec des questions, vu que... Oui, OK. Tu veux-tu... Mais tiens...
Je voudrais savoir, c'est quoi le truc le plus fou qui vous est arrivé pendant que vous étiez au Québec?
À moi?
Ouais, commence parce qu'il faut que je réfléchisse.
Non, ben
c'est quoi le truc le plus fou qui t'est arrivé pendant que t'étais au Québec?
En parlant de...
Ça peut être soit pendant le festival ou dans... Vu que t'as été élevé ici...
Ou dans la vie?
Dans l'humour.
Je crois, Mathieu, l'histoire avec la heckler, de la joke de viol, je pense que c'est... Il y a 6 mois à peu près, je dirais, c'est la première fois qu'il y avait genre un heckler, il y avait un heckle ici. Genre, tout le monde... Genre,
ouais, puis c'est rare des hecklers au bordel.
C'est super rare, man. À New York, ça arrive à tous les jours. Et j'ai raconté une joke, c'était assez simple, puis... Je crois que la joke, c'était... t'as raté le début, man. Fait que... je vais devoir recommencer. La joke, c'était... genre, il y a une femme qui avait les bras croisés, puis c'est genre silly, tu sais. J'ai dit, ah, tes bras sont croisés. J'ai lu un article qui disait que les femmes qui croisent les bras, ils protègent leur sein subconsciemment. Fait que... maintenant, je vais devoir te violer. OK. Fait que la femme, elle a réagi de même. Puis elle a capoté, elle a commencé à me gueuler. Tu sais. Mais c'était genre silly. C'était pas méchant. Tu sais. Puis ça, c'est une affaire que juste en parenthèse, c'est pas important les mots qu'on dit, c'est l'énergie derrière les mots. Parce que toi, man, ce que tu dis est tellement fucké, man. Mais tu t'en sors parce que c'est pas... T'es pas malin,
ouais,
c'est pas
c'est
méchant.
C'est l'intention.
Mais ouais,
en arrière,
t'es pas
là,
méchant, t'es tellement un bon dude que genre.
Ouais. Non, mais c'est
il
vrai.
Mike, c'est vraiment.
C'est genre, mieux de faire je vais te violer que je vais te faire l'amour. Tu sais? Non, mais.
Ouais.
Tu sais?
Ouais.
Non, mais c'est vrai.
C'est exactement ça, mais c'est tout dans l'énergie, man. Puis l'intonation. Fait que la femme, elle commence à capoter, elle commence à me gueuler, puis j'arrive même pas à continuer, puis je dis « Non, je vous comprends, vous avez raison. » J'avais fait cette joke la semaine dernière, puis il y avait une femme, elle avait des larmes aux yeux, puis elle est sortie de la salle, puis j'ai dû courir après elle, puis je l'ai violée. Puis, merci. Perfect timing. Fait que c'est ça. Fait que... la salle était complètement déstabilisée. Puis quand je l'ai repunché, parce que toi, soit tu peux... demander le pardon, puis tu t'excuser
ou fait all in.
Next level.
Ouais.
Puis avec le next level, tu peux pas perdre. Ouais. Puis, Puis genre, mais... elle était bien après. Elle était correcte, non, Mathieu?
Non, Mathieu. Mais tu peux pas perdre, sauf, mettons, Michael Richards. Il l'a amené next level.
Ouais, mais ça, c'était...
Mais genre, ça fait...
Mais
ça
c'est quoi? Moi, je comprends l'intention de Michael Richards. Ouais. Il a voulu amener ça, genre, à un... Moi, je l'ai compris de manière qu'il a voulu amener ça, genre, à un niveau tellement absurde que je crois pas que son intention, c'est d'être raciste ou, tu sais, genre...
Il y avait juste pas le talent de stand-up pour faire ce genre de truc-là.
Mais aussi, on n'a pas vu ce qui s'était passé avant. On a juste vu le clip où genre, il a dit... Mais on n'a pas vu les 2 minutes ou les 3 ou les 5 ou les 10 minutes avant ça. Puis, tu sais, c'est facile de juger ça de même, mais je pense que, comme tu le sais très bien, tu sais, dans l'humour, il faut, pour regagner la foule, des fois, il faut vraiment sacrifier une personne.
Je crois que Mike, il pense à quelqu'un en particulier.
Mais ouais, puis sinon, si tu sacrifies pas cette personne-là, tu risques de perdre toute la foule. Puis.
Fait que t'as dit ça à la fille parce que t'aimais tellement le public.
C'est
pour vous que j'ai fait pleurer.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est. Il y a une histoire, il y a un dude qui s'appelle, c'est genre un motivational speaker, il s'appelle Joel, j'oublie son nom, man. Joel, il travaille pour, c'est le genre de gars, tu lui donnes 5 minutes n'importe où, puis il peut se retrouver avec une foule de genre 300-400 personnes, n'importe où, c'est fou. Puis il y a une histoire où, je connais pas l'histoire exacte, mais de ce que je me souviens, il a dit... Il dit, j'ai une valise ici avec 100 000 $ cash. Puis il ouvre la valise et tu caches. Puis il dit, je suis prêt à le donner à la personne je vais recommencer. Il dit, j'ai 100 000 $ ici. Puis il dit, il regarde à une personne, puis il dit, je vais donner cette valise si tu dis que tu m'aimes. Fait qu'il parle à un gars puis il dit I love you. Like, je vois que t'es un homme, t'es une belle personne, t'as une belle énergie. Est-ce que t'es marié? Ouais. Est-ce que t'as des enfants? Ouais. Je peux voir que t'as une belle énergie. Tu dois être un bon papa. T'es une belle personne. Moi, je t'aime. Je t'aime vraiment en tant que personne. Puis là, il regarde vraiment comme je te regarde maintenant, Mike. Puis je t'aime. Puis je suis prêt à donner cette valise avec le cash. Toi, t'es capable de me dire sincèrement que tu m'aimes. Parce que moi, je t'aime. J'aime l'être humain que t'es. Puis il y a toute la foule. Puis le gars, il arrive pas, man. Il arrive pas à dire je t'aime. Ça sort pas de sa bouche, man. Puis pendant ce temps-là, pendant qu'il sacrifie cette personne, toute la foule, I love you, Joel! I love you! Joel Bauer. Puis c'est fou,
c'est
man.
Pas le nom du gars dans 24, ça? Ah non, c'est Jack Bauer.
Jack Bauer.
OK, excuse.
Non, c'est Vanilla Ice. Non, mais tu sais, il y a toujours quelqu'un à sacrifier. Puis j'avais fait la joke de viol cette semaine. Au bordel, j'avais refait la joke, puis une femme, elle avait capoté, man. Puis j'avais perdu la foule complètement. Puis la femme, elle dit, j'ai dit, bon, je vous ai perdu. Elle dit, ouais, tu m'as perdu. Est-ce que je vais te retrouver, je vais te regagner. Après, elle dit, je pense pas que c'est possible. J'ai dit, OK, on va le faire, mais on va devoir sacrifier un couple.
En plus, c'est weird de dire à une fille que tu vas violer, je vais te retrouver.
Puis j'ai dit, on va sacrifier un couple, mais c'est toi qui vas choisir le couple. Alors, il y a 2 couples que j'ai choisis, puis je te donne la full responsabilité, man. Puis elle a dit, OK, on va choisir ce couple, OK? J'ai dit, mais t'es responsable. Puis alors, j'ai fait une joke où, genre, j'ai prouvé qu'une femme qui était mariée n'était pas en amour, sur l'amour véritable, qui n'était pas en amour avec son mari. Puis, elle a applaudi à la fin de la joke, man. Mais il fallait sacrifier quelqu'un pour regagner la foule.
C'est comme ça que des sectes commencent, Daniel.
Mais c'est quelque chose que t'apprends, tu sais. T'es mon prof.
Ouais. toi, pour le truc qui est arrivé au Québec?
Mais je pense que c'était mon premier jour. C'était justement quand Gilbert Rozon a essayé de me piéger pour la caméra cachée, parce qu'il m'a fait venir dans son bureau. Déjà, j'ai attendu, je pense, 2 heures dans les bureaux juste pour rire, parce que les pièges précédents prenaient du temps. Je suis arrivé dans le bureau et Gilbert a commencé à me faire du small talk. Moi, je comprenais pas. Je venais faire un mini show à Zoufest. Je comprenais pas pourquoi j'étais dans le bureau de Gilbert Rozon. Puis il me posait des questions sur la Suisse. Et tout à coup, dans le bureau, il y a Pierre-Bruno Rivard, que je connaissais pas, qui débarque. Il était torse nu. Il avait des trucs marqués sur le torse. Il débarque avec une femme qui était aussi topless et qui avait aussi des slogans marqués sur le torse. Puis ils avaient une caméra. Et Gilbert allait se cacher derrière son bureau. Et le piège, c'est que c'était un humoriste qui arrivait pas à vivre au Québec, qui gagnait pas assez d'argent à cause juste pour rire, et il voulait s'en prendre à Gilbert Rozon personnellement, et il voulait m'agresser et me faire réagir. Donc il commençait à me crier dessus, les deux, lui et la nana, et moi j'essaie de pas regarder ses seins, parce que je comprenais que c'était pas ce genre de scène-là, mais en même temps, elle avait quand même ses seins devant moi, donc c'était un peu perturbant, puis il y avait des trucs notés, donc tu sais pas si tu dois les lire quand même, ou enfin c'est...
C'est quoi qui était écrit?
Ben, je me souviens plus, mais elle a des jolis seins. Et il essaie de m'expliquer, Pierre Bruno, qui est quelqu'un d'assez maigre, que, à cause de Juste pour rire, il crevait de faim, il n'arrivait pas à manger. Et puis moi, j'avais entendu des choses positives et négatives sur Juste pour rire, donc je le croyais. Moi, je pense Donc, en fait, j'ai marché dans le piège, mais je suis quelqu'un, un peu comme Daniel, je suis pas quelqu'un de très expressif, donc je réagissais pas. Et il essayait de me faire m'énerver, il me criait dessus, il m'insultait, puis moi je suis là, ok, non mais t'es fâché, je comprends, puis j'étais très calme. Et du coup, j'étais un peu effrayé, mais pour eux, c'était la caméra cachée la plus ratée de l'histoire, parce que j'ai pas réagi du tout, puis au bout d'un moment, Gilbert est sorti derrière son bureau, puis ils ont annulé, quoi. Okay. Ils ont dit, il y a des caméras là, là et là, puis j'ai fait, ah ok. Donc voilà, ça c'était un truc très bizarre, mais j'ai jamais vu la vidéo parce que je pense qu'ils l'ont jamais sorti.
Puis, fait que sur les 6, il y a eu Farid qui a marché et l'autre, tu sais lequel?
Il y en a eu 3 qu'ils ont diffusé. La seule qui était bien, c'était Farid. Il y avait Donnell Jacksman, qui est un humoriste black français.
Oh, oui.
Tu vois que c'est? Et ils essayaient de lui faire croire qu'il fallait qu'il porte des talons sur scène parce qu'il n'était pas assez grand. Et que c'est les humoristes grands qui marchaient mieux, donc ils avaient fait des statistiques, ils étaient allés voir son spectacle, puis ils avaient dit à tel moment ça commence à baisser un peu, et donc ils lui ont amené des chaussures à talons, et lui il a pas voulu les mettre. Et il y avait Marina Rollman, qui est une compatriote suisse, à qui ils avaient essayé de faire croire qu'il fallait qu'elle mette une robe hideuse, parce qu'elle était pas assez jolie sur scène. Wow. Et du coup, ils lui font essayer une robe hideuse, puis elle est gentille, puis elle dit, non, je crois pas que ça me va, puis c'était un peu...
C'est bien mauvais comme concept, ça, tu sais. Tout me donne... Moi, en fan du monde, je regarde, je fais... Arc! Ça me donne... Oh, tu sais, il y a juste le gag de Farid que je trouve drôle.
Le gag de Farid était très aussi, les autres un peu moins. Je crois qu'il y a Alex Vizorek, qui est un humoriste belge. Ils avaient fait croire... Ils lui amenaient un cocktail de bienvenue, un espèce de shot. Je crois que c'est du sortilège ou du truc au sirop d'érable. Et Pierre Bruno avait prétendu mourir. Et je crois que ça n'avait pas marché du tout. Mais voilà, c'était les pièges. Mais sinon, sur scène, ça a toujours été assez cool. Et en fait, en Europe, on n'a pas les standings.
Ouais.
Et du coup.
Mais aux États-Unis non plus.
Ouais,
sauf les Black Rooms, là, tu sais.
Ouais. Mais en fait.
C'est bizarre, de ressentir ça, des standings. C'est...
En France, il y a, à la fin de ton spectacle, parfois, quand tu joues une heure, si les gens t'ont bien aimé, ils se lèvent. Ou en général, c'est fabriqué un peu avec la musique, ils finissent un truc un peu sentimental. Je crois qu'Anne Roumanoff, elle salue en levant les bras, puis il y a un truc un peu pavlovien qui fait que les gens se lèvent comme ça.
C'est tellement drôle. Merci.
Voilà, et puis les gens... Oh. On m'a dit ça, je sais pas si c'est vrai. Ouais. Mais du coup, la première standing que j'ai eue ici au Québec, je savais pas quoi faire parce qu'on n'a pas, on sait pas ce que c'est. Nous, ici, c'est un truc qu'on a bien aimé, on se lève. En France, si les gens ont bien aimé, ils sourient, donc c'est pas.
Est-ce que t'étais ému ton premier standing?
Ouais, je crois un peu, parce qu'en plus avec mon style qui est pas très expressif, c'est pas ce qui provoque le plus de standing, parce qu'en les standings, j'ai l'impression que si tu finis sur une montée, si tu finis en criant, ou si tu finis sur un truc émotionnel, ça, il y a tendance à se lever. Moi, j'ai pas d'émotion. Et je crie pas. Donc, quand ça s'est levé, j'étais surpris. Puis ouais, j'étais touché. Puis t'as l'impression que t'as bien fait ta job?
Moi, c'était j'avais eu Godfrey dans un gala français que j'animais, qui jouait en anglais, puis il y avait eu un standing, puis après, j'avais dit, t'es le premier qui fait un gala, qui fait du stand-up anglais dans un gala français. Mais lui, il avait compris que c'était le premier standing de l'histoire de Juste pour rire. Puis je l'ai vu, ou je l'ai entendu dans un podcast américain, dire ça, qu'il était le premier à avoir eu un standing. Puis j'étais comme, fuck, t'étais le sixième de la soirée, ouais. Tu sais.
Mais tu sais, ce qui est weird, c'est avec les standings, je crois que c'est beau à recevoir, mais je crois que tout le monde les mérite. C'est parce que tu te sens weird, man. Si toi t'as pas
c'est comme les fellations.
Si t'as pas eu le standing ou quelqu'un d'autre l'a eu, toi tu l'as pas eu, puis après tu te retrouves en coulisses. C'est con, man. C'est un gala ou un spectacle, c'est quelque chose à tout le monde devrait être célébré. Ouais. S'il y a pas, ça devrait être compétitif, puis ça devrait. C'est genre.
Ouais, c'est bizarre.
C'est con, c'est bizarre. Man. C'est. Soit tout le monde le mérite, on le fait pour tout le monde, on le fait pour personne.
Surtout, ce qui est stressant, je trouve, quand tu sais, comme moi, chaque fois que je fais un gala, il me place vers la fin. Puis là, quand tu vois que tout le monde a un standing, puis t'es le 11e, tu veux pas être, tu sais, 10 standings et
ouais,
toi.
Ouais.
Tu sais.
Ouais.
Mais t'es unique.
Puis j'ai entendu ouais. ça en plus à Montréal durant le festival. Genre, tu sais, il y avait un agent, puis il me dit, ah, c'était bien les shows de ton artiste. Ouais, c'était bien, mais elle avait seulement, tu sais, comme un standing. Genre, c'est incroyable, un standing, man. Mm. Seulement un, tu sais, genre, je trouve que, genre, les humoristes québécois, c'est, ils ont besoin de cette. Ils s'attendent, oui, c'est genre la confirmation du gala.
Mais c'est, disons que c'est tangible, tandis que le nombre de rires, la qualité du rire, l'appréciation du public, tu peux pas le mesurer, tandis que la standing, tu vois, ces gens se lèvent.
Non, mais c'est beau à recevoir. J'ai entendu quelque chose cette année, que c'était la première fois que j'entendais, ce que là, le monde disait, j'ai eu un standing instantané. Puis il a dit, lui, il a eu un standing, mais c'était pas instantané. Ouais, c'est comme,
fou, hey, non, Chris, ouais,
c'est fou.
Il y a différents degrés
de ça. Ouais, puis c'est pas important, puis ça, c'est une illusion de toute manière, man. Ça fuck avec ton ego, puis c'est pas la vérité, puis tu te retrouves moi, la semaine prochaine, je vais me retrouver avec 5 personnes dans un petit bar de pitoyable à New York, puis.
Non, ils vont tous venir.
Ouais. Puis ils vont te faire un standing.
Ouais.
Instantané.
Ouais. Instantané. Fait que je pense on va... Ça fait...
longtemps.
Ça fait longtemps. ça, plus que 2 ans. Je veux vous remercier, les gars.
Merci
si,
à toi,
si on veut vous suivre Facebook, Twitter, Instagram, c'est quoi vos... c'est où qu'on vous suit?
Moi, c'est Thomas Wiesel. C'est Wiesel, W-I-E-S-E-L. Et j'ai un peu la même tête partout, donc c'est ça.
OK. OK, fait qu'on cherche un gars qui te ressemble puis qui a ton nom, puis ça risque d'être toi.
Il y a souvent des chances que ce soit moi.
Okay. Et toi?
Moi, c'est Tornado Torado.
Sur Twitter?
Ouais, sur Twitter puis Instagram, Tornado. Puis mon nom de famille, Tirado, T-I-R-A-D-O.
Parfait. Excellent. Puis merci beaucoup.
Merci.
Merci les gars.
Merci Mike.
Merci d'avoir été là.
Merci.
Merci.